Allô les amis, bienvenue, merci d'être là. 10h18 en ce vendredi, aucune idée de la date. 10 octobre 2025, j'espère que vous allez bien, que cette fin de semaine se passe bien pour vous. La revue de presse est tous les matins, la matinée Étienne, on se penche sur l'actualité. Ensemble, on lit des articles, on en parle tranquillement pendant 3 heures en général. Ça se lance vers 9h, ça se lance vers 9h30, ça se lance vers 10h18 comme à l'instant. Ça peut se lancer à midi quand il y a des trucs. Pardon, mais le vrai horaire, c'est 9h, 9h30. Voilà. Alors, l'horaire de début est parfois fluctuant, mais la revue de presse est devenue quotidienne. C'est-à-dire, c'est vraiment du lundi au vendredi. Il n'y a pas de « je la fais pas aujourd'hui, j'ai des tournages, il y a d'autres trucs ». Non. Depuis le mois de juin, c'est vraiment très régulier, quoi. Voilà. C'est même pas très régulier, c'est régulier. C'est tous les jours. Sauf les week-ends. Quoique, quand tu vois l'actualité, quand tu vois que il peut se passer des choses ce week-end autour du gouvernement, tout ça, Premier ministre, gouvernement, budget et éventuelle allocution du chef de l'État, il y a un monde où, le samedi matin, le dimanche matin, ça pourrait refaire en vrai. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, oui, malgré le coucher tardif, puisque hier soir, on s'est buté sur du Warzone dans un deuxième temps. J'aime vraiment beaucoup ce jeu que Shoachin m'a fait découvrir dans Simplay. Et juste avant, on avait tenté le multi de Battlefield 1, sachant que Battlefield 6 sort aujourd'hui à 17h si je dis pas de bêtises. Et autant le mode histoire de Battlefield 1 pour une vieille personne comme moi est assez, comment dire, compréhensive, quoi. Chill, autant en multi sur des gars qui, à mon avis, jouent la même map depuis 6 ans, là, tous les jours, c'est un peu punitif. Voilà. Mais du coup, on a quelques repères pour le Battlefield 6, c'est un peu l'idée qui se lance à 17h. Alors, il y a un monde où moi, à 17h, je voudrais être sur mon. Hein? Ah oui, c'est intéressant, Rec. Attends, je vais essayer de revenir vers toi tout à l'heure. Il y a un monde où j'aimerais devant mon PC à 17h, mais c'est impossible parce que j'ai un tournage pour un ami youtubeur cet après-midi. Voilà, la dernière fois que j'ai. C'est en deux épisodes, et pour le premier épisode, le tournage avait littéralement 3 heures de retard. Donc je suis censé être de retour à la maison à 18h, là, enfin, tout à l'heure. Ça sent le 21-22h cette histoire. Voilà. Ce qui est. Bon. Bon, c'est comme ça. Voilà. Ouais. Enfin, je dis ça, je suis pas le seul à avoir des problèmes d'emploi du temps. Hier, j'ai zappé j'avais une réunion Teams avec des gens très sympas de Twitch et j'avais juste pas vu le mail de confirmation de la réunion et je l'ai totalement zappé. Voilà. Donc, est-ce que je serai à 17h devant mon PC? Non, sans doute pas, 18h non plus. Ouais, si je lance à 21h ce soir un stream, sans doute de Battlefield 6 du coup. Alors c'est pas une OP, hein, c'est juste pour le plaisir de découvrir ce jeu-là qui se lance aujourd'hui. Ben, je vais essayer bien sûr. Voilà, sachant que il y a un article dans les Échos aujourd'hui sur la sortie de Battlefield 6. Et la concurrence entre Battlefield et Call of Duty, vachement intéressant. Voilà. Monkey pose l'une des questions importantes aujourd'hui, qui sera le Premier ministre. Ton pronostic? Alors moi je ne confonds pas la politique avec le tiercé quarté quarté plus. Et je ne fais pas de pronostic. Voilà. Je n'en fais pas. C'est vrai, hein? Les habitués, vous savez, je fais pas trop de pronostics sur l'actu, moi. Voilà. C'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Par contre, ce que j'aime vous expliquer, c'est toutes les hypothèses possibles. Sachant que la vie politique est tellement dingue en ce moment dans notre pays, c'est que t'as beau essayer d'imaginer toutes les hypothèses possibles, eh ben ils arrivent encore à inventer des trucs. Tu vois? Donc c'est là où la notion de pronostic, elle est très relative, quoi. Hein? Mais en tout cas, oui, je comprends la question. Vous, ça va, vous? La vie? Les amours? La santé? Tiens, on parlera un petit peu de Covid vite fait aujourd'hui aussi. Tiens, d'ailleurs, je pense que les amis de TikTok ont déjà le sommaire. Je vous le mets aussi, amis de Twitch, comme ça vous voyez de quoi on va parler aujourd'hui. J'ai envie d'éternuer. Merci Magoum. Tu veux pas devenir président? Si, 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 c'est prévu, c'est prévu. C'est prévu. Ah ouais, mais là, tu sais, la police de l'immigration, il y a Amnot Gonali, c'est ça? Qui me dit, Hello Sam, est-ce qu'une de ces matinées, tu pourras parler des arrestations de l'ICE? L'ICE, c'est, si j'ai pas de bêtises, la police de l'immigration aux États-Unis, dont les moyens ont été hyper boostés par le président Trump. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Hein. C'est un sujet qu'on a plusieurs fois traité déjà, et qu'on retraitera sûrement, en fonction des actualités, des articles là-dessus, quoi. Ouais. Mais très bon sujet, ouais. Ouf, Lilou, vous savez qui? On envoie de la force à ce petit loulou de 10 ans. Oh, est-ce que tu. Lilou, tu me donnerais son prénom que je lui fasse un petit message? On a un petit bonhomme de 10 ans qui voit une opération arriver là. Lilou, tu me donnerais son prénom que je lui fasse un petit message? Je vous lis, hein, c'est mon petit plaisir du matin, puis on va commencer. Lilou, t'as un petit prénom? C'est Raphaël? Ok, je t'enlève le sommaire sur Twitch pour que ce soit un joli petit message. C'est Raphaël? Ok. Attends, je me concentre. Hein, tu pourras peut-être couper ce petit message dans le replay sur Twitch ou sur YouTube, quoi. On y va. Coucou Raphaël, c'est Samuel Etienne. J'espère que tu vas bien. Tu es sur ma chaîne Twitch et j'ai quelqu'un qui t'aime très fort qui m'a parlé de toi à l'instant dans mon chat, qui m'a dit qu'il y avait une opération qui arrivait là bientôt aux alentours de Noël et je voulais te dire que bah, je pensais bien à toi, je t'envoie un max de force bonhomme et dans le chat là, je sais pas si tu pourras le voir, mais il y a plein de gens qui t'envoient un maximum de cœur et de courage et de force, parce que tout le monde sait que tu vas être très fort et très courageux et tout le monde pense fort à toi, voilà. Ça va hyper bien se passer. Et voilà, je voulais te dire que je pensais que on pensait à toi. Voilà, je pense que on te montrera tous ces cœurs là dans le chat, tu vois. Et c'est pour toi. Voilà. Bonne fin de semaine, bon week-end, profite bien. Et dis-toi qu'après ces moments qui pourront parfois être un peu compliqués, après il y aura plein de belles choses pour toi. Ok? Allez, force. On remet le sommaire. Voilà, c'est pour Raphaël. Ça, c'est pas grand-chose, hein. C'est quelques secondes dans la journée et littéralement ça peut faire plaisir à un petit bonhomme, quoi. De rien, Lilou. C'est intéressant ça. Ah, faudrait parler un jour des live trading. Ah ouais, c'est intéressant, ça a baissé. Quand je vois des jeunes de 18 ans qui rentrent dedans. Ouais. Il y a un article vite fait ce matin sur les jeunes et la crypto, notamment les mineurs et la crypto qui détournent des interdictions légales pour commencer à mettre des sous dans la crypto, tout ça. J'aurais peut-être dû vous le mettre de côté celui-là. Mais ok, je surveillerai l'actu, quoi. Merci Chewbacca. Alors, c'est qui le Premier ministre aujourd'hui? Bon, on ne sait pas encore. Par contre, je compte sur vous, c'est-à-dire vous avez une responsabilité aussi dans ce live. C'est que moi je suis sur les articles des journaux parus ce matin, mais l'actualité, évidemment, elle évolue tout le temps, elle bouge tout le temps. Donc si à un moment vous voyez dans l'actu un truc qui pop, notamment sur la crise politique, ça y est, on a un nouveau Premier ministre, ça y est, on a un nouveau gouvernement, ça y est, le président va parler, allocution, ou alors un horaire, tu vois, genre à 17h il se passe ça, vous me le dites, parce que souvent c'est comme ça que j'apprends des trucs super importants, quoi. Est-ce que tu as déjà fait une analyse poussée de la situation à Gaza après l'accord de paix? Si oui, est-ce qu'il y a une rediffusion ou autre? Nunu, c'est non, c'est exactement ce qu'on va faire ce matin. Moi, je parle beaucoup de la crise politique depuis quelques jours, mais ce matin, notre premier et principal thème, ce sera bien comment pourrait s'appliquer cet accord de paix pour Gaza. Ouais, c'est vraiment le gros sujet dans les journaux ce matin et on va prendre le temps d'en parler. Ouais. Je vais vous lire plein d'articles là-dessus. Voilà. Merci au Royaume Couture officiel. Merci Princesse Fiona pour le 21e mois d'abonnement et pour ton message adorable. Merci hey Fergie, j'espère que je prononce bien. Merci pour le 31e mois d'abonnement. Merci au Homo Yili, merci Calipox, merci Bandinigo, merci Camille encore pour hier soir, merci Yanouf, merci Chewbacca justement, merci au Toton, ami TikTok aussi. J'ai pas vu pour Charles Villa, il se passe quoi pour Charles Villa, Your Dead, raconte-moi. Et c'est marrant parce que quelqu'un sur Twitch me parle de Charles Villa et sur TikTok, Valentin, à l'instant, bonjour Samuel, as-tu vu la nouvelle sur l'arrestation du journaliste Charles Villa? What? Ah mais attends, il devait pas aller, il devait pas tenter de se rendre à Gaza, Charles Villa? Heurdead, cette nuit, Charles Villa, mon ami, est journaliste engagé. Tu cites quelqu'un, là, mais il faut que tu me dises qui tu cites, parce que tu mets des guillemets, mais tu me dis pas qui parle. C'est important toujours, qui parle. Qui parle, toujours selon les qui parle. Charles Villa a été arrêté illégalement par l'armée israélienne alors qu'il se rendait à Gaza pour témoigner de la situation humanitaire et tenter de briser le blocus. Ouais, alors je déteste avoir raison, parce qu'en général, c'est pas une bonne nouvelle. Et quand vous m'aviez appris certain que Charles Villa voulait se rendre à Gaza, il y a quelques jours, mon commentaire, vous pourrez le retrouver en replay, hein, je me dis, mais alors force à lui, parce que je ne vois. C'est Avamind qui a tweeté ça, l'excellente Ava. Vous pourrez retrouver le replay, je vous dis, force à lui, parce que je ne sais pas comment il va faire. Puisque l'armée israélienne interdit à tout journaliste étranger de se rendre dans la bande de Gaza. On se demande bien pourquoi. Hein, on se demande bien pourquoi. Quand une puissance empêche les journalistes d'aller sur un endroit, sur un terrain, c'est parce qu'on a peur de la vérité. Voilà. Et ce que tout le monde sait, quoi. Et donc j'avais dit, ben force à lui, parce que je ne sais pas comment il va réussir. Et vous m'apprenez qu'il est arrêté. Voilà. Alors, hélas, et là, pour le coup, je suis triste d'avoir. Triste d'avoir raison, c'était prévisible, quoi. C'est fou, ça. Ok. Ouais, a priori, il s'est fait arrêter. On va aller voir ça. Bisous à l'infirmière Magoum. 3-2 Paris de Gaza. Bah, t'as raison en vrai, Ophélie Gabi, on va y aller direct là. Hein. J'ai cru que tu avais une chaîne de lunettes pour papy. Ah oui, ah oui, mes petits fils d'écouteurs. En fait, ça, c'est une déformation du gars qui a fait de la radio longtemps. Et en radio, on aime bien s'entendre pour voir quel est son niveau de voix, si le son est OK, si on sature pas, c'est plein de choses. Et donc je m'écoute toujours quand je parle pour ces raisons-là. Et c'est vrai que ces petits cordons d'écouteurs, ça fait penser à des petites lunettes, des petits cordons de lunettes. C'est pas, c'est très juste et très juste. Mais un jour j'en aurai, hein. Un jour j'en aurai parce que le jour où mon épouse, alors c'est pas le cas aujourd'hui. Je suis assez maniaque, je range les, comme c'est le bordel dans ma tête, je suis assez maniaque comme tous les gens dont la tête est un peu bordélique, ils sont maniaques, ils essaient de bien ranger les choses pour que ce soit pas trop le boxon tout le temps. Et donc je demande assez rarement à mon épouse ou à mes enfants où sont mes lunettes, je sais où elles sont. Elles sont rangées. Voilà. Mais le jour où je commencerai à demander sans arrêt, mais où sont mes lunettes? Alors que littéralement elles sont sur mon front, hein, eh bien, je pense qu'on m'achètera ces fameuses chaînes de lunettes. Voilà. Ou alors, oui, elles sont sur ton front, elles sont sur ton nez. Hein. Là, elles sont sur, là, tu les as accrochées à ton t-shirt. Hein? Ouais. Tu auras la classe. Je sais pas si j'aurai la classe avec mes chaînes de lunettes. Kameto, elle l'a déjà fait, c'est pas une question d'âge. Elle est plutôt jeune non plus. Hein. Oh la balle perdue. Merci Gaël. Je rappelle que biologiquement, génétiquement, à partir de 20 ans, on commence à décrépir, quoi, à perdre des cellules, quoi. Hein? La louche, c'est un truc comme ça, quoi. Bah oui, à partir de 20 ans, votre prime, c'est 20 ans. Après, on gère. Hein. Eh oui. Non, dis pas ça, s'il te plaît. Mais oui, mais. Ah, c'est 25? C'est vrai? Vous pensez que c'est plutôt 25? C'est pas pour vous rassurer, ça plutôt. Merci Gaël. C'est plutôt 35. Ah, ça y est, il y a les enchères qui sont parties. Non, je crois que c'est 50. Attends, début de la dégénérescence cellulaire. C'est peut-être 25. Hein, de la dégénérescence. Allez! Mon clavier est déporté parce qu'il faut la place pour mon iPad, du coup c'est... Quand commence la dégénérescence? Alors au niveau des organes, c'est 30 ans. Hein? À partir de 30 ans, une altération lente et progressive du fonctionnement de chaque organe apparaît. Les parois du cœur s'épaississent, le muscle perd en mobilité. Mais moi je parlais de la dégénérescence cellulaire. Quand commence le vieillissement cellulaire? Désolé les gars. Hein? Le vieillissement cellulaire débute généralement entre 20 et 30 ans. Ouais, ça peut commencer à 20 ans, je suis désolé. Hein. Et ouais, les petits jeunes de 25 ans là qui étaient en mode wouhou! Bah non, vous êtes déjà vus en fait, ça a commencé. Mais après ça peut se gérer. Hein. Regardez. Regardez, moi j'ai 26 ans et je suis encore en pleine forme. Hein. Regardez Laura. Non, non, c'est important. Game One, Dadou, il faudrait que je trouve des articles là-dessus en vrai. Non, pas Laura, le prénom, Laura, quoi. 26, tu fais plus jeune? Ouais, je sais. Non, mais Laura, le halo, comme dans la chanson de Texas. She's got a halo. Ah non, c'est. Je confonds peut-être avec Beyoncé. Oh. Ouais, il est plus tout jeune, hein. Alors, quelle heure est-elle? On va peut-être commencer cette revue de presse là. Normalement, on commence au bout de 30 minutes, parce que moi, ce que j'aime, c'est. Salut, Défécateur. C'est discuter, c'est échanger avec vous. C'est pour ça que je suis sur Twitch et c'est pour ça que je vis ma meilleure vie ici. Mais il y a tellement d'actu ici qu'on irait peut-être. Hein. Game One, c'est fini depuis 2002. Ah, bah, faut dire ça à Marcus, il va être content. Il savait pas. Hein. Manifestement, il avait une fiche de paix tous les mois quand même. Hein. Ouais. Marcus, l'ami Marcus, il nous arrête hier soir d'ailleurs. Sam, j'ai une question. Est-ce que le temps de parole des politiques est décompté sur Internet? Non, frais de port. Pour l'instant, Internet, le temps de parole politique n'est pas décompté. Alors, il est décompté en télé, il est décompté en radio, surtout en période de campagne électorale. Il n'est pas décompté sur Internet, de même qu'il n'est pas décompté dans la presse écrite. Comment tu décomptes un temps de parole en presse écrite, par exemple, c'est un peu. Donc, bonne question. Merci Tantris pour le 23e mois. Tu es le vrai Samuel Etienne? Non. Non, le vrai Samuel Etienne est beaucoup plus beau, Turbo AI. Non, non, non. Moi, je ne suis qu'une pâle imitation. Fabriqué vite fait chez Shein, là. Je sais plus comment vous dites, là, les vêtements, là. Shein. Le vrai n'a pas de lunettes. Le vrai a une vision parfaite. Je crois que le vrai, il a 15 sur 10 aux deux yeux. Or, celui-ci, il est quasiment aveugle, celui-là. Parce qu'on n'avait pas le budget pour fabriquer le vrai. Le vrai, il est hors de prix. Le vrai, il est hors de prix. Les plus anciens ici ont connu l'homme qui valait 3 milliards, la série et la télé. Le vrai Samuel, il coûte beaucoup plus cher que ça. Hein. Une copie, c'est hors de prix. Surtout dans le contexte budgétaire français, vous savez que c'est la crise, il y a la dette et tout. Donc, il n'y a pas le budget en France pour fabriquer un Samuel Etienne. Hein. Non, 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 non. Non, non, non. Le vrai n'a pas commencé sa dégénérescence cellulaire, exactement, oui. Prouve-moi que tu es une imitation, fais quelque chose que le vrai ne sait pas faire. C'est l'inverse. C'est-à-dire que il y a plein de choses que. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je ne sais pas faire et que le vrai Samuel Etienne sait faire. Le vrai Samuel Etienne sait toucher son nez avec son orteil, par exemple. Moi, je ne sais pas. Le vrai Samuel Etienne danse comme un dieu. Hein, c'est-à-dire que quand le vrai Samuel Etienne s'avance sur une piste de danse, les danseurs s'arrêtent de danser. Hein. Un cercle se crée. Voilà. Et moi, je ne sais pas faire ça. Le vrai Samuel Etienne, un jour, fera danse avec les stars, par exemple. Hein. Moi, c'est pas du tout prévu. Alors, j'avais pas cette info, mais Yet Another Mobile, leur cœur nous dit, le vrai Samuel Etienne était pris en photo en faisant le grand écart entre deux poids lourds. Ça, je ne savais pas. Merci, ça rallume. Como esta? Le vrai Sam gagne aux échecs avec juste un pion. Ça y est, on est parti sur un truc qui me fait plaisir. Le vrai Sam. Il y a un concours entre les deux tchats, je me régale. Le vrai, c'est marcher sur l'eau. Voilà, oui. Oui. Ça, oui, ça, là, on commence à se régaler. Le vrai ne sait pas faire Alt F4. Ok. Merci, Mioni. Très joli pseudo. Merci pour ton prime. Le vrai Samuel Etienne, à la maison, on l'appelle. Ses proches l'appellent Lisanne Alcaib. Le vrai. Le faux, non. Bon, j'aurais dû dire des bêtises. Les amis, merci de votre bonne humeur, merci d'être là. Voilà. Est-ce qu'on partirait pas, pardon, sur une petite une revue de presse? Est-ce qu'on partirait pas, pour commencer, sur un sommaire? Le sommaire qui vous donne l'essentiel de l'actualité. Ça permet à ceux qui peuvent pas passer 3 heures avec nous, parce qu'en gros on est ensemble jusqu'à 13h, 13h15 ce matin, bah d'avoir l'essentiel de l'actualité. Hein, on ferait ça? Ça vous va? Allez, let's go. Allez, je vous montre tout ça. Non, on va pas commencer par Macron, on va commencer par le Proche-Orient. Voilà, ami TikTok, je vous mets ça aussi. Let's go. Ok. On y va. Et je vais essayer de me tenir droit, parce que vous êtes nombreux à me faire remarquer que je... Reviens à petite revue de presse, que je me tiens pas droit et que je vais finir par être bossu. Let's go. Alors, on va prendre beaucoup de temps ce matin. Sur le Proche-Orient. Hein, le sommaire, il commence à 25 minutes. Je vous le mets en TC, en timecode, pour ceux qui nous regarderont en replay. C'est parti. Ce matin, on va prendre le temps de parler du Proche-Orient. On va prendre le temps de parler de cet accord que certains appellent l'accord pour la paix à Gaza. Hein. L'accord Israël-Hamas, ici en une du monde, qui, a priori, aurait été accepté par Israël et par le Hamas. Hein. Accord Israël-Hamas sur la libération des otages, c'était la une du monde hier après-midi. Je m'en veux d'ailleurs, parce que j'aurais vu cette une du monde hier après-midi. J'ai fait d'autres trucs. J'aurais relancé une revue de presse hier soir. Tellement c'est important, quoi. Donc c'est la une du monde ce matin. Je vous donne les infos vite fait pour ceux qui ne les avaient pas. Donald Trump a annoncé qu'Israël et le Hamas avaient accepté les termes de la première phase, hein, du plan de paix pour Gaza. Ça veut dire que tous les otages seront bientôt libérés et qu'Israël va retirer ses troupes le long d'une ligne négociée, a précisé le président américain. Hein, ça veut dire quoi tout ça? Israël a confirmé, le Hamas a confirmé. Netanyahou a convié Trump à venir prononcer un discours à la Knesset, qui est la chambre monocamérale du Parlement israélien. Et quelqu'un me dit, mais il n'est pas fragile cet accord? Oui, bien sûr, évidemment. Quand on voit la tension qui existe entre les différentes parties au conflit, évidemment, évidemment. Voilà. Fragile accord sur Gaza, nous dit Le Monde, mais ce n'est pas vraiment une surprise. Je vais vous lire beaucoup d'articles sur le sujet, sur le même sujet, parce que sur un sujet aussi important, il faut avoir différents regards, il faut avoir différentes analyses. Différentes opinions. Voilà. Libération des otages, Israël retient son souffle. Voilà, là c'est un article dans Le Monde, parce qu'évidemment il y a des familles, hein. Il y a des familles. Bah alors Samuel Le Gauchot, t'as été viré de question pour un champion? Ah, on aime le content, on aime le divertissement. Hein. Les gens disent on ne sait plus rire, il y a plus d'humoristes. Si, 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 si. On est en train de parler de la paix au Proche-Orient et t'as des mecs comme ça qui popent dans le chat. Moi, je salue cet effort pour de tenter de nous faire rire en ces périodes troublées. Bravo, 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 merci. Tu as 2 doigts de passer VIP, mon ami. DZ, je sais pas quoi, là. Donc, oui, évidemment, il y a beaucoup d'espoir en Israël du côté des familles des otages, vous imaginez bien. Israël retient son souffle, on lira cet article. Continue à nous faire rire, hein, des aides pour Zob là, c'est vraiment ça fait plaisir. Réaction du côté d'Israël, réaction évidemment du côté des Palestiniens. À Gaza, une joie teintée de la peur d'être encore déçu. Hein. Des habitants de l'enclave rappellent les souffrances endurées depuis 2 ans, blâmant à la fois le Hamas et Israël. Voilà. Et on lira plein d'articles là-dessus ce matin. Dans le Parisien, par exemple, qui nous parle du triomphe de Donald Trump. En tout cas, c'est comme ça que lui présente tout ça, quoi. Le triomphe de Donald Trump dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, Israël, le Hamas devrait signer la première phase de l'accord de paix du président américain, obsédé par l'obtention du prix Nobel qui sera décerné aujourd'hui, je crois, ce matin. Hein. Beaucoup pensent qu'il ne l'aura pas. Voilà. Lui aimerait beaucoup l'avoir. Et on verra tout ça avec le Parisien. C'est à 11h? C'est à 11h? Libération, on parle. Libération, on fait ça une. Bah quand le prix Nobel de la paix va tomber ce matin, je compte sur vous pour me le dire. Hein, et on le commentera en direct. Voilà. Libération, accord Israël-Hamas, jour de paix. Jour de paix, titre Libé quand même. Hein. Des démonstrations de joie des deux côtés de la frontière ont accueilli l'annonce historique de la fin des combats entre l'enclave palestinienne et de la libération prochaine des otages israéliens. Voilà. Une joie inouïe malgré une paix sans garantie. Est-ce que cet accord va tenir ou pas? C'est la question que beaucoup se posent, bien sûr, ce matin. Alors, cet accord, il a le mérite d'exister. Hein. Déjà. Donc avant de s'inquiéter, en ce matin, on va à la fois s'en féliciter et s'inquiéter. Se féliciter de cet accord et s'inquiéter de savoir s'il va tenir. Et si un jour il va ramener vraiment la paix, une paix durable dans la région, bien entendu. Donald Trump et son ego au cœur des négos. Joli titre de Libé. Libé qui nous explique, comme d'autres journaux, que l'une des raisons pour lesquelles Trump a pesé pour cet accord, bah, c'est sans doute pour d'abord pour lui, pour son ego, pour son espoir de prix Nobel de la paix. Puis moi, et moi à ça, je réponds, bah, peu importe ses motivations, hein. Peu importe ses motivations. Là, pour le coup, la seule chose qui est importante, c'est le résultat. Voilà. Benjamin Netanyahou, seul contre tous, mais dos au mur, article dans Libé. Le Figaro, c'est également la une du Figaro, quand je vous dis que c'est vraiment une information très importante. Israël-Gaza, Donald Trump ouvre un chemin pour la paix. Le président américain a obtenu un accord qui devrait permettre la libération des derniers otages israéliens du Hamas en échange de prisonniers palestiniens à retrait partiel de Tsahal, l'armée israélienne à Gaza. Très bonne question d'Arthur dans le chat. Mais il n'y en a pas déjà eu plein des accords comme ça? Alors, sur ce qui se passe en ce moment à Gaza, non. Hein. Mais des tentatives d'instaurer la paix dans la région, de créer les conditions de la paix entre Israéliens et Palestiniens au Proche-Orient, bah oui, il y en a depuis des décennies. Dans l'actualité, non. Hein. Le premier plan de paix pour mettre fin à ce qui se passe actuellement, là aujourd'hui à Gaza, c'est-à-dire l'armée israélienne qui tape tous les jours les civils palestiniens. Voilà. Et ces otages israéliens qui sont toujours retenus par le Hamas, non, c'est le premier plan de paix sérieux. Mais dans l'histoire, il y en a eu plein. Voilà. Hélas, les partisans de la guerre, les extrémistes des deux camps, ont toujours gagné dans leur combat contre les partisans de la paix. C'est ça l'histoire de la région. Mais très bonne question, oui. Voilà, donc on lira le dossier du Figaro. Voilà, une victoire pour Donald Trump, oui. Oui. Même si on n'a pas beaucoup de sympathie pour le président américain, à titre personnel, il m'inquiète à... Non, on est toujours dans le sommaire, Oli, toujours dans le sommaire. Tu vois bien que la vitesse à laquelle on lit les articles, on est dans le sommaire, t'imagines? Alors le Figaro parle de Gaza, ouais, super intéressant. On va parler de Battlefield 6 aussi. Non, on est dans le sommaire là. Oui, c'est une victoire pour Trump. Oui, c'est une victoire pour Trump. Ouais. Ce qu'il a fait là, personne d'autre ne l'a fait. Hein. Il est où le plan de paix de l'Europe pour la région? Il est où le plan de paix des pays arabes pour la région? Il est où le plan de paix de la Russie pour la région? Il est où le plan de paix de la Chine pour la région? Bah non, c'est lui qui l'a fait. Voilà. Oui. Est-ce que c'est une nouvelle chance pour la paix? Ça, c'est autre chose, parce qu'il faut que ça dure dans le temps. Est-ce que d'ailleurs Trump va s'engager pour la paix dans la région au-delà de quelques jours? Hein? Parce que ça, cet effort pour ramener la paix dans la région. Il doit durer des années, en fait. Des années. L'accord de paix à Gaza, une fragile lueur d'espoir. On peut se féliciter tout en s'inquiétant de la suite, bien sûr. Développe pourquoi il t'inquiète. Non, Corum, on est dans le sommaire. SO2MIRE, c'est littéralement écrit sur ton écran. Ça veut dire qu'on est en train de dire ce dont on va parler. Donc, dans le sommaire, on ne développe pas. SO2MIRE. C'est écrit. Voilà. L'Humanité, qui est un journal historiquement pro-palestinien, qui soutient la lutte palestinienne depuis toujours. Voilà. L'Espérance et la Prudence, vous voyez, vos journaux vous disent un peu tous la même chose, malgré les différences de sensibilité éditoriale. On lira ce dossier de l'UMA, qui se félicite que Gaza entrevoie la fin du cauchemar. Voilà. C'est également la une de L'Opinion, qui est un quotidien libéral. Proche des entreprises, paix à Gaza, les raisons d'y croire, on a envie d'y croire. Voilà. Regardez, il y a un chercheur qui s'appelle David Kalfa qui dit les planètes sont alignées. Mais les incertitudes demeurent. Il y a Alexandra qui me dit que le président Macron va parler à 14h30. Alors, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, ça m'arrange pas du tout. Parce qu'à 14h30, je saute dans un taxi pour aller à un tournage d'un ami youtubeur. Ah, super, ok. Et là, ok, j'ai mon rendez-vous. C'est bon. Et moi, j'ai un Teams à 13h. Non, il réunit les partis à 14h30. Il y a un truc, d'accord. À 14h30, il reçoit les partis. Ok. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, c'est quand même très intéressant. Je réponds à. Je sais pas, ceux qui étaient là hier savent que j'ai raté un Teams. Une réunion hier, elle est recalée à 13h. Merci, Isabelle. Cette fois, je serai bien là. Donc, à 12h55, je vous abandonne, les amis. Je serai bien là. Les gens sont vraiment gentils de me donner une deuxième chance là pour cette réunion où on parlera de Twitch à 13h. À tout à l'heure. Voilà. Tellement honteux d'avoir raté ce rendez-vous hier. J'avais pas vu le mail de confirmation. Ok, 13h. Ok, let's go. Je vais me mettre tout de suite un petit réveil. On va pas rater deux fois quand même. Hein. On va mettre 12h50. Okay. Donc 14h30, le président Macron reçoit les partis politiques. C'est extrêmement intéressant. Enfin, les partis politiques. S'il fait comme Sébastien Lecornu, il n'y aura pas LFI, il n'y aura pas le RN. Hein? À voir. Ok, on continue le sommaire, les amis. Pardon pour cette petite interruption. Voilà, on a une question dans l'opinion qui est intéressante. Jean-Luc Mélenchon aurait-il la paix honteuse? Parce que voilà, il ne semblerait pas s'être rapidement félicité de cet accord de paix. Pourquoi? S'interroge l'opinion. Voilà. Bon, ça repose la question du rapport entre LFI et la question palestinienne. Voilà. Et puis, deuxième gros thème ce matin, on est toujours dans le sommaire, je vous annonce ce dont on va parler. Quelle piste pour le futur gouvernement? Voilà. Ha! Le feuilleton! Le feuilleton, qui sera le nouveau Premier ministre de la France? Pour former quel gouvernement? Pour quelle politique? Pour quel projet de budget? Pour quelle réforme des retraites, puisqu'on parle de la suspension de la réforme des retraites? Pour quel déficit? Beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Merci mon Hugo, merci Dan Blaster pour ton soutien. Merci Vapel, merci à tous les deux. Merci Mams, Esperantia et Bibi. Voilà. Alors voilà, article dans le Parisien, quelle piste pour le futur gouvernement? Macron en quête d'un dernier de corvée, non pas de cordée, titre Libération, ils sont très forts pour les titres, voilà. Est-ce que ce serait pas Lecornu qui succéderait à Lecornu qui succéderait à Lecornu? Hein? Lecornu, Premier ministre dimanche soir, démissionnaire lundi, je m'en vais, mais finalement je reste parce que le président m'a demandé de former un gouvernement, mais je vais former le gouvernement et discuter avec les partis, mais je ne serai pas Premier ministre parce que ça va aller maintenant. Et Apache, finalement, si. Tout est possible. Magnifique. Voilà. Et puis, une question que plusieurs se posent, est-ce qu'on n'assiste pas là à un rapprochement accéléré de la droite LR républicaine traditionnelle, hein, héritière de l'UMP, du RPR pour les plus anciens, et du RN. Est-ce qu'on assiste à un rapprochement ou pas de LR et du RN? Bon, on a un article ce matin de Libération qui dit qu'il n'y croit pas trop, tout simplement parce que finalement les deux partis n'y ont pas tant intérêt que ça, pour des raisons mais de politique politicienne, de stratégie. Voilà. Donc c'est assez intéressant, je vous lirai cet article. Voilà, alors l'humanité. Se désole de cette fin de quinquennat du président Macron. Emmanuel Macron, c'est l'impasse partout. Voilà. Et puis on verra que Lecornu, qui pourrait donc finalement être Premier ministre à nouveau, voilà, est prêt à lâcher du déficit pour voter un budget et obtenir la participation, en tout cas le soutien, en tout cas la non-censure d'une partie de la gauche en laissant. Oh, un petit propos homophobe. Ah. Alors, je suis très ouvert, moi, à plein d'idées. Mais dans ma phrase, c'est plein ouvert à plein d'idées. C'est pas, je suis pas ouvert à la connerie, quoi. Et ni à la discrimination, ni au racisme, à l'antisémitisme, à l'homophobie, au sexisme, à la transphobie, etc. Donc ça dégage. Salut Cassis. Va te chercher une petite chaîne homophobe, tu vas sûrement en trouver. Ne reviens pas surtout, hein. Le cornu prêt à lâcher le déficit pour voter un budget. Ouais. Voilà. Et puis, vite fait, à la fin, on parlera de deux autres actualités. Donc les deux grosses, vous l'avez compris, c'est Gaza et le gouvernement. Et puis on parlera aussi du retour du Covid. Voilà, parce que les contaminations montent là, avec un nouveau variant. Donc attention aux plus fragiles. Hein. Les personnes âgées, les tout-petits, les femmes enceintes, attention. D'autant que le vaccin, il arrive plus tard. Et du coup, il y a un article sur ça, sur le fait que on a une vague qui arrive là, mais le vaccin, je crois que c'est qu'à partir du 14 octobre. Le variant Frankenstein, il s'appelle comme ça, exactement, c'est vrai. Et puis, idem pour la grippe, ouais. La grippe, c'est pareil, il commence à y avoir des cas, alors que le vaccin arrive un petit peu plus tard. Donc, il y a un petit article là-dessus, quoi. Et puis, Battlefield 6, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui. Voilà, moi, j'aurais voulu être à 17h devant mon PC pour lancer Battlefield 6. Mais je pense que ça va être compliqué, puisque je serai en tournage... Je suis un célèbre youtubeur et ami. Voilà. Donc, on a un article dans Les Échos. Les Échos, qui est un journal économique, mais qui est l'un des journaux français qui s'intéresse le plus à l'univers du jeu vidéo. Alors, certes, par le prisme économique, mais quand même. Voilà, si tout le monde s'intéressait aux jeux vidéo, comme le font Les Échos, ben, on parlerait plus de jeux vidéo en France, quoi. Donc merci Les Échos. Et on a notamment un coup de projecteur sur la bataille entre Battlefield 6 et Call of Duty. Pas mal, hein. Voilà, donc ça c'est dans Les Échos, on finira avec ça quoi qu'il arrive. Bon, j'accélère un petit peu parce que je sais que à 12h50 je dois vous abandonner. Voilà pour le sommaire de ce matin, et on va attaquer par le prochain rien. Ok, et il est 40 minutes. On a commencé il y a 40 minutes, je vous l'indique en TC, en timecode, pour ceux qui consommeront cette revue de presse en replay sur Twitch ou YouTube, ou en podcast audio, puisque depuis 15 jours, cette revue de presse est désormais aussi tous les jours en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast, les Deezer, les Spotify, les Apple, etc. Voilà. Puisque vous étiez très nombreux à me le demander. Hop, je vous mets la petite flèche désormais, non plus en phase de sommaire, mais en phase de accord de paix pour Gaza, puisque c'est le sujet que nous allons aborder maintenant, ce qui permet à ceux qui nous rejoignent pendant la revue de presse de savoir où on en est, de quoi on a parlé, de quoi on va parler, de quoi on est en train de parler. Let's go. Ok. Je crois qu'on est bon. D'ailleurs, ça marche bien en podcast ? Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait tant de monde, ouais. Là, en 2 semaines et demie, ça y a eu... Genre 90 000 écoutes presque. Waouh! Ouais. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Merci à Gérard pour le Prime. On y va? C'est parti. Amis de Twitch, amis de TikTok, amis de YouTube, amis qui nous écoutaient en podcast. Audio, merci d'être avec nous. C'est parti pour la revue de presse de ce vendredi 10 octobre 2025, où on va aujourd'hui beaucoup parler du plan de paix pour Gaza, vous l'avez compris. Des questions autour de la crise politique en France, Premier ministre, gouvernement, budget, etc. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ce week-end, lundi, un petit peu aussi du Covid et un petit peu de Battlefield 6. Mais d'abord, donc le Proche-Orient. Et là, je vais vous lire plein d'articles là-dessus pour essayer de comprendre... et d'avoir plein de regards différents et plein d'informations sur ce sujet ô combien important. La une du Monde, tout d'abord. Accord Israël-Hamas sur la libération des otages. Je prends Le Monde parce que Le Monde est sorti hier après-midi. Voilà, il va nous donner les infos essentielles à savoir sur le sujet. Et puis après, on lira les journaux qui sont sortis quelques heures plus tard, c'est-à-dire ce matin, ce vendredi matin, quoi. Donald Trump a donc annoncé, ce sont ça les faits, mercredi, qu'Israël et le Hamas avaient accepté les termes de la première phase du plan de paix pour Gaza. Timecode, ouais. 43 minutes, excusez-moi. Ah non, j'ai mis 40 minutes, c'est bon, c'est fait. Cela veut dire que tous les otages seront bientôt libérés et qu'Israël va retirer ses troupes le long d'une ligne négociée, dit le président américain. Israël a donné son accord. Le Hamas a confirmé cet accord. Voilà. Et Netanyahou a invité Trump en Israël pour prononcer un discours à la Knesset. Un fragile accord sur Gaza, donc titre le Monde. Donc accord, oui, mais fragile accord. Et vous verrez que ben, c'est à peu près ce que nous disent tous les journaux ce matin. Lisons cet article du Monde. Ce message de Donald Trump sur son réseau social Truth Social pèse d'un poids particulier, unique même, publié mercredi. Donc il annonce, c'est intéressant, c'est comme un président américain qui annonce cette nouvelle essentielle sur son réseau social à lui, quoi. C'est un moyen moderne de communiquer. Donc il annonçait sur son réseau social qu'Israël et le Hamas avaient accepté les termes de la première phase du plan de paix pour Gaza, comme on l'appelle parfois, présenté le 29 septembre. Cela veut dire, a-t-il déclaré, que tous les otages israéliens retenus par le Hamas vont être libérés bientôt. Alors, je précise, mort et vivant, puisqu'on sait que parmi ces otages, certains sont morts, et donc c'est la remise des dépouilles des corps à Israël qui va être faite. Et que dans le même temps, Israël va retirer ses troupes à Gaza, le long d'une ligne négociée entre les deux parties, comme premier pas en direction d'une paix forte, durable et éternelle. Toutes les parties seront traitées de façon équitable, déclare Trump. Et Trump qui remercie particulièrement d'autres pays, le Qatar, l'Égypte, la Turquie, qui, à Sharm el-Sher, servaient de médiateur entre les deux délégations israéliennes et celle du Hamas. Dans la matinée, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre du président, Jared Kushner, étaient arrivés en Égypte pour accompagner ce dernier effort diplomatique. C'était des représentants des États-Unis. 2 ans après les attaques terroristes du 7 octobre 2023 commises par le Hamas contre Israël, suivies d'une guerre ayant ravagé la bande de Gaza, l'espoir d'une cessation des hostilités se dessine enfin. Et Trump devrait se rendre dans la région. Alors il est invité à la Knesset israélienne. Il pourrait se rendre en Égypte aussi dans les prochains jours. Oui, je sais, le prix Nobel va tomber à 11h, je sais. Je sais, mais vous allez m'en informer. Vous êtes les meilleurs. Le Premier ministre israélien Netanyahou s'est félicité, lui, sur X. Ok, bon, breaking news, priorité à l'information, comme on dit sur les chaînes d'info. Vous me dites que le prix Nobel de la paix va être annoncé, accordé à une femme, ouais, et que ce n'est pas Trump. Alors, ce n'est pas une grande surprise que ce ne soit pas Trump, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Et parmi les spécialistes de la question du Nobel, tous s'accordaient à dire qu'il n'y avait aucune chance que Trump ait le prix Nobel. Là, en tout cas. Et on m'annonce par FBI 75 que ce prix Nobel de la paix 2025 est décerné à une femme, Maria Corina Marciano. Est-ce qu'on est en Amérique latine, Amérique du Sud, Amérique centrale? Merci, Defecator. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on fait une petite pause sur ce sujet Gaza, voilà, pour aller voir cette info. Venezuela, ok, très bien. Let's go. J'essaie d'aller sur le site d'info pour avoir les. Le Monde n'a pas encore publié l'info. Elle est littéralement tombée il y a quelques secondes. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement chercher son nom à elle. Hein. Voilà. Voilà. Et je vais vous donner ça. Hop. C'est une ancienne députée vénézuélienne. Maria Corina Machado. Voilà. Alors, je vous le montre sur Twitch. Hop, les petites recherches qu'on va faire là. Évidemment sur TikTok aussi. Hop, hop, voilà. Ça donne ça. Donc qui est-elle? Voilà. Donc déjà vérifions cette information. Voilà. Un petit Google Actu. Voilà. Ça, on sait vraiment, c'est tombé il y a quelques secondes. Hein. Ah, c'est une opposante au président Maduro. D'accord. C'est une opposante au président vénézuélien Maduro. Donc, très bien. Née en 67 à Caracas, donc femme politique vénézuélienne. député pendant 4 ans, de 2010 à 2014. Voilà. Prix Nobel de la paix en 2025, c'est déjà actualisé sur Wikipédia. Militante politique depuis 2002. En 2004, elle réunit 3 millions de signatures demandant le départ d'Hugo Chavez. À l'époque, du coup, elle est interdite du territoire. Elle est députée en 2010. Donc c'est une opposante à Chavez, Hugo Chavez déjà, à l'époque. Elle remporte en 2023 les primaires de l'opposition pour être la candidate de l'opposition au président Maduro, qui est l'héritier politique de Chavez. Hein? Sauf qu'en 2024, le tribunal suprême de justice du pays interdit sa candidature et la rend inéligible. Hein? C'est pratique. Ouais. Voilà, elle ne peut pas se présenter. Ok. Elle a déjà reçu le prix Václav Havel pour sa défense des droits de l'homme, le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, et donc elle viendrait d'obtenir le prix Nobel de la paix. Voilà. Ok. Donc voilà pour les premières infos hein, sur Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025. Donc on parle du Venezuela. Et puis on essaiera peut-être d'y revenir un petit peu plus tard quand il y aurait un peu plus d'infos. Voilà, Libération vient de publier un article à l'instant. « 338 concurrents étaient en lice pour ce prix Nobel de la paix. 338 candidats. Enfin, 224 personnalités et 94 organisations. Voilà. Ouais, je vous disais que les spécialistes du prix Nobel disaient qu'il y avait peu de chances que le président Trump l'ait, d'autant que l'accord du Hamas qui a été trouvé cette semaine est intervenu alors que le comité Nobel avait déjà pris sa décision. Hein? Voilà. Je le dis parce que Trump a dit officiellement, lui, qu'il souhaitait qu'on lui donne ce prix Nobel de paix. Il l'a dit à plusieurs reprises de façon extrêmement claire, quoi. Ok. Voilà. Bon, bah, on reviendra peut-être sur ce prix Nobel de la paix. Plus tard dans la revue de presse, qu'on aura un petit peu plus d'actualité sur l'histoire de cette opposante politique au Venezuela. Hop, hop. Et on reprend le Proche-Orient. Désolé pour cette parenthèse. Donc, j'en étais à la réaction du Premier ministre israélien sur ce plan de paix pour Gaza. Netanyahou s'est félicité sur Internet d'un succès diplomatique et d'une victoire morale et nationale pour l'État d'Israël, qualifiant l'accord de tournant critique. On verra ce que vaut cette analyse de Netanyahou, quoi. Le plan de paix en 20 points, présenté par Trump fin septembre, dessine une longue route à parcourir. Ce n'est que le début d'un chemin, hein. Avec beaucoup d'inconnus et de risques, les jours qui avaient précédé sa révélation avaient été très tendus. Si le soulagement dominait dans la soirée de mercredi, il n'est pas clair de quelle façon le désarmement progressif du Hamas serait organisé. Hein? Il y a un accord, mais évidemment, il y a beaucoup de questions, vous imaginez bien. Hein? Comment ce désarmement du Hamas va-t-il s'organiser? Hein? Le plan de paix américain prévoit notamment qu'une fois les otages israéliens libérés, les membres du Hamas qui renonceraient à la lutte armée bénéficieraient d'une amnistie et d'un droit de passage protégé vers l'étranger. Cet accord de paix, il met hors du jeu le Hamas, pour que le Hamas ne participe pas à ce qui va se passer ensuite dans la région, quoi. Et en fait, on sait que l'application de cet accord de paix, il va maintenant dépendre du comportement du Hamas et d'Israël. Hein. L'accord prévoit un retrait des forces israéliennes de Gaza. Comment va se passer ce retrait, quoi? Voilà. Je vous rappelle que historiquement, la région est victime des extrémistes des deux camps qui font tout en permanence pour saborder tous les efforts de paix, quoi. Donc là, il y a un effort de paix. et ce qui va se passer, ce qui s'est toujours passé dans la région depuis toujours, c'est-à-dire que les opposants à la paix vont tout faire pour faire mine d'accepter en général le processus pour mieux le couler après, quoi. Mais ces derniers jours, la priorité était ailleurs, c'est-à-dire vers la conclusion de l'accord plutôt que de commencer à s'interroger sur sera-t-il appliqué ou pas. Le retour des otages en Israël après une terrible épreuve de 2 ans permettrait enfin d'envisager un afflux massif d'aide humanitaire, hein, dans l'enclave et un peu de répit pour une population palestinienne à genoux, dépourvue des infrastructures élémentaires de la vie quotidienne. Le Monde nous propose cet article également. Libération des otages, Israël retient son souffle. Hein? L'annonce du retour imminent des 48 otages après 2 ans d'attente provoque un immense soulagement. Je vais vous lire quelques extraits de cet article quand même. Depuis 2 ans, des gares de Tel Aviv aux petites villes du nord, de Jérusalem au Negev et au kibbutz proche de Gaza, dans les administrations comme dans les commerces, à l'arrière des voitures, sur les écrans de télé, les visages des otages du Hamas sont affichés partout. Des chaises vides sur des ronds-points, des places publiques rappellent leur absence, des écrans décomptent les jours de captivité, des drapeaux jaunes sur les voitures, des rubans de la même couleur accrochés aux vêtements témoignent de la solidarité d'une nation. L'annonce, cette semaine, de la libération imminente et en une seule fois, des 48 derniers otages vivant ou mort, capturé il y a 2 ans par le Hamas, provoque un immense soulagement en Israël. Un grand merci à Mi Citron Violet pour ce raid sur Twitch. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Citron Violet est un Français qui stream IRL depuis le Japon et qui nous fait découvrir le Japon par ses streams, et c'est juste génial. N'hésitez pas les modos à épingler sa chaîne. On parle du plan de paix pour Gaza, les amis, qui a été signé par le Hamas et par Israël. Merci Framboise pour ton travail de modération. Avec ces libérations, la société israélienne va donc pouvoir commencer à refermer l'une des nombreuses plaies ouvertes le 7 octobre avec l'attaque terroriste du Hamas, à l'origine de la mort de 1200 personnes, de près de 4000 blessés, de l'enlèvement de 251 femmes et hommes âgés de 9 mois pour les plus jeunes à 86 ans. Voilà. Cet accord va apporter un soulagement indescriptible aux familles qui n'ont pas dormi depuis 733 jours, a commenté le chef de l'État hébreu, hein, Isaac Herzog. Qui a un rôle essentiellement symbolique, hein, le président israélien, qui n'a pas du tout les pouvoirs du président de la 5ème République en France, par exemple. Alors, je vous lis pas tout l'article, parce que j'ai énormément d'articles ce matin sur le sujet. Je vous lis vraiment l'essentiel, mais n'hésitez pas, vous, si le sujet vraiment vous intéresse, par exemple la réaction des Israéliens à ces libérations, d'aller lire par exemple cet article du Monde qui est page 4 dans sa dernière édition. Voilà. Cet article nous rappelle que les rassemblements improvisés ont progressivement gonflé au fil des mois en Israël. La colère face à la responsabilité personnelle de Netanyahou dans la faillite sécuritaire du 7 octobre, puis dans la conduite de la guerre, n'a cessé d'enfler. Avec elle, la mobilisation passait de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de personnes, puis centaines de milliers de personnes israéliens qui régulièrement manifestaient contre le gouvernement Netanyahou, sans impact sur la politique du gouvernement. Avec des récits de captivité qui ont bouleversé l'opinion publique. Notamment sur les conditions de détention de ces otages par le Hamas. Voilà. Donc, soulagement en Israël, ce qu'on peut comprendre. Hein. Encore une fois, les journaux français se placent d'un point de vue israélien et celui palestinien s'interroge Hati. Ça, c'est l'illustration Hati de ne pas savoir prendre le temps. Voilà. Ici, on n'est pas sur une chaîne d'infos en continu où on est dans l'émotion et dans on fait du bruit pendant des heures sur une actu. On essaie de se pencher toutes les actus. Et tu vois, littéralement, page 4, c'est le regard des Israéliens sur cet accord. Et page 5, c'est le regard des Palestiniens sur cet accord. Il suffisait d'attendre 10 secondes, en fait. Voilà. Faut pas, parfois, il faut apprendre à pas parler trop vite, en fait, pour commenter l'actualité. C'est la leçon qu'on doit retenir de ça. Voilà. Parfois, il y a des choses à dire très fortes. Voilà. Mais parfois, il faut juste attendre 10 secondes, en fait. Donc, page suivante. À Gaza, une joie teintée de la peur d'être encore déçu. Des habitants de l'enclave rappellent les souffrances endurées depuis 2 ans, blâmant à la fois le Hamas et Israël. Petit à petit, la rumeur se répand. À Gaza, dans cette enclave privée d'internet, d'électricité, la fête commence. Hein, donc, il y a eu des scènes de joie, de liesse à Gaza. Des enfants applaudissent devant les hôpitaux de la bande de Gaza où on témoigne, où on soigne l'afflux continu de personnes blessées par les missiles, par les tirs israéliens. Une foule commence à scander des chants de joie. Voilà les instants de joie qui arrivent après les massacres et la famine. Dans le camp d'Al-Mawassi, dans le sud de l'enclave, où plus d'1,5 million de Gazaouis ont été déplacés de force et vivent sous tente, des personnes jointes au téléphone par Le Monde, hein, parce que je rappelle qu'Israël interdit aux journalistes... Il y a Robert qui vient faire la pub d'un compte bancaire, là. C'est incroyable, ça. Aucun respect, quoi. On parle des Palestiniens et t'as un mec qui vient spam dans le chat une pub pour une banque, quoi. C'est fou, hein. Allez, ça dégage. Et donc, je rappelle qu'Israël a interdit les journalistes étrangers de rentrer dans la bande de Gaza. Vous m'avez appris tout à l'heure que Charles Villa avait été arrêté, a priori, par l'armée israélienne. Voilà. Dans le camp d'Al-Mawassi, des personnes jointes par téléphone, par Le Monde, veulent y croire, mais se montrent prudentes. « Je suis heureux, bien sûr, mais j'ai peur que l'accord soit rompu », déclare Ahmad, un dentiste de 50 ans. On a déjà eu des espoirs comme ça. Hein. Puis la guerre a repris, notamment en mars, après la rupture unilatérale par Israël du cessez-le-feu qui avait été conclu en janvier sous l'égide de Trump. J'ai peur d'être déçu. Hein, c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup chez les Palestiniens. C'est ce que dit Basma, par exemple, qui a dû fuir sa ville de Gaza, qui vit sous tente, désormais déplacée à Nusayrat, et qui exprime les mêmes craintes, mais espère pouvoir revenir chez elle, ne serait-ce que pour voir si sa maison est toujours debout. Hein? Abou Rachad, père de 5 enfants, se réjouit certes de la fin possible des bombardements. Nous ne vivrons plus cela au quotidien, mais à l'intérieur, nous sommes comme morts ou anesthésiés, nous avons tant perdu. Alors, moi, je viens de Rafah, ma maison n'existe plus, ni ma ville. Où vais-je aller ? Dit ce père de famille. Originaire de Gaza, déplacé de force 20 fois. Avec sa famille, Abou, sa mère, énumère le nombre de ses parents tués depuis 2 ans. Même si la guerre prend fin, toute l'infrastructure est détruite, il n'y a pas de perspective pour le futur. Si les frontières ouvrent aujourd'hui, qui voudrait encore rester à Gaza ? Dit-il amer. Ce Palestinien dit encore, je ne peux pas excuser le 7 octobre. Je condamne entièrement cette attaque car cela nous a coûté un génocide. Dit ce Palestinien. Selon des chiffres des autorités de l'enclave corroborés par les organisations internationales, plus de 67 000 personnes ont été tuées à Gaza, dont près de 20 000 enfants. Des milliers de corps sont toujours sous les décombres et on compte plus de 168 000 blessés. Dans la bande de Gaza, de nombreux citoyens contactés donc au téléphone par Le Monde partagent cette rancœur contre le Hamas, contre le mouvement islamiste, à qui ils attribuent une large responsabilité dans la situation catastrophique dans laquelle ils sont aujourd'hui plongés. C'est pour ceux qui pensent que tous les Palestiniens sont derrière le Hamas. Le Hamas s'est introduit en Israël, a lancé cette guerre qui a été inutile. Tout ce qu'on a subi en retour comme déplacement, destruction, souffrance n'avait aucune justification, dit Salim par exemple. S'il blâme le Hamas, il insiste aussi sur le fait qu'Israël n'a fait aucune distinction entre les civils et les combattants dans sa réponse disproportionnée. Le mouvement Hamas qui gouverne d'une main de fer après avoir pris le pouvoir par les urnes en 2006, mais l'a imposé par la force, inspire une frayeur chez les habitants où la liberté d'expression était réprimée. Aujourd'hui, des langues se délient pour critiquer le manque de soutien et d'assistance apportée à la population par le Hamas. Eux, le Hamas, ils n'ont pas souffert comme nous. I, on en arrivait à dire si seulement il n'était pas là pour que cette guerre n'ait jamais eu lieu, dit Hamad, qui a 22 ans. Il fait toutefois une distinction entre les combattants auxquels la population continue de vouer une forme d'admiration et un leadership du Hamas, accusé de corruption et défendant ses propres intérêts. Les Gazaouis interviewés par Le Monde expriment tous leur volonté de voir le Hamas s'écarter du pouvoir, de laisser la place à d'autres organisations politiques. Beaucoup expriment toutefois la crainte que le chaos règne dans l'enclave à la merci de groupuscules armés qui ont émergé depuis que le mouvement islamiste a perdu le contrôle de l'enclave. Toute cette anarchie que l'on vit n'existait pas avant la guerre, c'est catastrophique la situation. Les commerçants, les voyous, les voleurs, les cambrioleurs, à l'époque du Hamas, personne n'osait lever la tête. Donc nous espérons qu'ils reviennent, rétablissent la sécurité et remettent de l'ordre à Gaza, témoigne par exemple Allah. De nombreux Gazaouis reconnaissent que le mouvement était facteur de stabilité et de sécurité dans l'enclave. Toutefois, s'il était amené à quitter le pouvoir, ils tiennent à ce que celui-ci soit assumé par des Palestiniens et non par une tutelle étrangère comme le préconise le plan Trump. La crainte la plus forte est que l'État hébreu n'honore pas sa promesse de cesser le feu après la remise des otages. Il n'y a aucune garantie, les Israéliens, d'après notre expérience, ne sont pas fiables. Si le Hamas les remet tous d'un coup, ces otages sans conditions sérieuses, ce sera très grave. Il n'y aura plus personne en Israël, comme les familles d'otages, pour réclamer la fin de la guerre. Au contraire, cela unirait toute la société israélienne derrière la poursuite de l'offensive. Donc, inquiétude des Palestiniens. Est-ce que Israël va vraiment cesser le feu? Quand on dit Israël, c'est le gouvernement israélien de Netanyahou, bien sûr. Alors, est-ce que ce qui se passe là est un succès pour Trump? Quelle que soit la sympathie qu'on ait ou qu'on n'ait pas pour le président américain, la réponse est oui. Voilà. Là, c'est le titre du Parisien, le triomphe de Trump. Alors, c'est lui qui parle d'un triomphe, hein, bien sûr. Après, vous l'analysez comme vous le souhaitez, vous. Lisons cet article. Quand il veut faire passer un message social sur son, un message crucial sur son réseau Truth Social, puisqu'il a son propre réseau, c'est pratique, Trump utilise les lettres capitales. Voilà. Donc là, par exemple, il a écrit, parce qu'il parle de lui à la troisième personne, « Le président Trump a fait l'histoire. Voilà. » Le président des États-Unis exulte, il a réussi son coup de force avec son plan de paix au Moyen-Orient. Oui. Dans la nuit de jeudi à vendredi, donc, Israël, le Hamas, devait accepter les termes de la première phase. Trump est celui qui l'a annoncé au monde, toujours sur son propre réseau social. Hein. Cela veut dire que tous les otages seront bientôt libérés. Et qu'Israël va retirer ses troupes le long d'une ligne négociée. Bon, ça, on va voir si ça se vérifie dans les prochains jours, bien sûr. Toutes les parties seront aidées de façon équitable. Le Monde le félicite. Il a reçu des félicitations du monde entier. Il a reçu des félicitations d'Israël et du Hamas, par exemple. Voilà. Trump a tracé une voie ambitieuse. Salut le président français Emmanuel Macron. Voilà. Les menaces du milliardaire américain envers le Hamas, condamné à vivre un enfer s'il ne se conformait pas à l'accord, ont porté leurs fruits, tout comme les fortes pressions exercées sur son allié Netanyahou, le premier ministre israélien, pour qu'il accepte le deal même de mauvaise grâce. L'extrême droite israélienne, avec laquelle Netanyahou est allié au pouvoir en Israël, ne voulait pas de cet accord de paix. La diplomatie par la force. Son mantra depuis son retour à la Maison-Blanche a encore frappé. Moi, sur le sujet, je vous dis régulièrement, parce que ce sujet, on en parle tous les jours sur cette chaîne Twitch, le seul acteur qui pouvait réellement imposer la paix dans la région, pour des raisons historiques, économiques, militaires et autres, ce sont les États-Unis. Voilà. Trump a décidé de prendre la main. Voilà. Il a imposé cet accord aux parties, et cet accord s'est imposé. Voilà. La seule chose qui pouvait se produire, s'est produite. Après, il faut que ça tienne. Un mot du prix Nobel qui est tombé ce matin, qui a été donc accordé à une opposante vénézuélienne. Voilà, on sait que Trump espérait l'avoir. Netanyahou vient de lancer un nouvel appel, il y a quelques heures d'ailleurs, en cette direction, en disant Netanyahou, hein, donner le prix Nobel de la paix à Trump, il le mérite. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump en faisait une obsession. Ne pas l'obtenir serait, selon lui, hein, une grande insulte contre les États-Unis. C'est Trump qui dit ça. Ne pas donner le prix Nobel de la paix à Trump, c'est une insulte contre les États-Unis. Bon, bah là, c'est raté. En tout cas, pour cette édition 2025. Voilà. Il l'aurait même mentionné à un ministre norvégien lors d'un entretien téléphonique en juillet, dont on a déjà parlé ici, au sujet des droits de douane. Scène surréaliste où le président américain appelle un ministre norvégien pour parler des droits de douane, de la guerre commerciale, des droits de douane que les États-Unis imposent à l'Europe, et notamment à Norvège. Et dans cette discussion, qui est une discussion qui a un bras de fer aussi, il dit, au fait, vous, Norvège, Oslo prix Nobel. Hein. Au fait, vous ne m'oubliez pas pour le prix Nobel. C'est une vraie anecdote, quoi. Voilà. Et là, Israël pourrait se rendre dans la région et peut-être même en Israël, on verra dans les prochains jours. Voilà pour les infos donc déjà données par Le Monde, par Le Parisien. Je vous lis plein d'articles ce matin parce qu'on essaie d'avoir un maximum d'infos pour avoir, comment dire, la vision la plus claire possible de ce sujet. Et là, c'est la Libération qui se penche également sur cette actualité. C'est sa une, jour de paix. Donc voilà. Alors on peut s'inquiéter, on peut se demander si tout ça va vraiment s'appliquer. On peut... Mais voilà, il faut aussi parfois se réjouir de certaines nouvelles, et voir ces mots en une de Libération ce matin, jour de paix, c'est déjà ça. Libé qui rappelle que des démonstrations de joie des deux côtés de la frontière ont accueilli cette annonce de la fin des combats dans l'enclave palestinienne et de la libération prochaine des otages israéliens. Moi, je vous propose qu'on lise un édito. Un édito, c'est un article où le journal List donne son avis, voilà, qui résume aussi un petit peu l'actu. Voilà. Merci juste Sacha, merci Momboobs, merci Ajrekov, merci Skymon, je vous ai pas remercié. Merci chez nous. Lisons. Le jour s'est levé sur un nouveau Moyen-Orient. Les premiers rayons sont apparus à 2h du matin, heure locale, dans la nuit de mercredi à jeudi, avec l'annonce aussi attendue qu'improbable, parce que beaucoup doutaient que les deux parties, Hamas et Israël, allaient donner leur accord. Annonce aussi attendue qu'improbable qu'Israël et le Hamas avaient atteint un accord. Pour Netanyahou, il s'agit d'un accord pour libérer nos chers otages. Hein. Pour les dirigeants du Hamas, il s'agit d'un accord de paix à Gaza et du retrait des troupes israéliennes du territoire. Évidemment, chaque camp met en avant ce qui l'intéresse. Quoi. Netanyahou dit, vous avez vu, j'ai obtenu la libération des otages. Le Hamas dit, vous avez vu, on a obtenu le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Voilà. Alors, Trump, lui, il en rajoute toujours un peu. Il parle d'un événement historique et sans précédent, ouvrant la paix non seulement à la fin de la guerre, mais à une paix solide, durable et éternelle. Alors, même si je trouve que cet accord de paix est une bonne nouvelle, affirmer aujourd'hui, vendredi 10 octobre 2025, que c'est l'ouverture d'une paix solide, durable et éternelle dans la région, hélas, personne ne le pense. Voilà. On n'en est pas encore là, écrit Libé. Même dans son interprétation la plus restreinte, l'accord signé par les négociateurs à Sharm el-Sheikh concernant le premier volet du plan en 20 points du président américain est malgré tout une réussite extraordinaire. Merci Rem. Il prévoit donc l'arrêt de tous les combats. Le retour de l'aide humanitaire. Quelqu'un me dit, c'est pas, Nas me dit, c'est pas un accord de paix, tu n'as pas tort. Ça n'est pas un accord de paix dans le sens où ça garantit la paix dans la région, cette paix éternelle dont parle Trump. Ça n'est pas un accord de paix parce que ça ne garantit pas la condition sine qua non de la paix dans la région, qui est la création d'un État palestinien, de la coexistence de deux États. Mais c'est un accord de paix dans le sens où ça suspend les frappes israéliennes contre les Palestiniens. Ça dépend de la définition qu'on veut donner à la paix, quoi. Est-ce que la paix, c'est la fin des combats? Ou est-ce que la paix, c'est quelque chose de durable pour des siècles et des siècles? Oukacha, ici, on lit Le Figaro tous les jours, on lit L'Opinion tous les jours, on lit Les Échos tous les jours. Voilà. Si tu es un habitué de cette revue de presse, tu le sais, et du coup, tu as la réponse à ta question. Donc, réussite extraordinaire, dit Libé, malgré tout. Hein, Il prévoit l'arrêt de tous les combats, le retour de l'aide humanitaire à Gaza, un retrait des troupes israéliennes, la libération des 20 otages encore vivants contre 2000 prisonniers palestiniens. Cet échange, qui pourrait avoir lieu dès lundi, donnera lieu sans aucun doute à une explosion de joie, même mêlée à une appréhension naturelle vu le chemin qui reste à parcourir. Comment ? Ça, c'est une vraie bonne question. Comment une négociation bloquée depuis plus de 10 mois a pu soudainement aboutir à un accord aussi impressionnant ? Libération, qui est un journal qui est assez critique avec Trump, écrit quand même que c'est un accord impressionnant. Comment un plan de paix quasiment semblable à celui morné de Biden en juin 2024 a soudainement pu être accepté par tous ceux qui, hier, l'ont refusé ? Il est probable, écrit Libé, que le moment de bascule a été l'attaque désastreuse ordonnée par Netanyahou sur le siège du Hamas à Doha, capitale du Qatar, dont on a parlé ici. Pour Trump, il était impossible de laisser son allié israélien bombarder un allié majeur des États-Unis, hein, le Qatar, qui a deux, trois arguments intéressants pour les États-Unis, notamment du pétrole, acteur principal non seulement des négociations autour de Gaza, mais aussi d'opérations financières très lucratives de la famille Trump dans les pays du Golfe. Donc là, peut-être une grosse boulette de Netanyahou, de taper le Qatar, où il y avait les gens du Hamas. C'est ce que explique Libé. L'aboutissement de l'initiative française de reconnaissance de la Palestine à l'ONU, hein, la reconnaissance de l'État palestinien par la France et par d'autres pays ensuite, moins de 48 heures après cette attaque sur le sol qatari, a parachevé l'isolement politique d'Israël. Qu'on le veuille ou non, et même si un État palestinien paraît plus loin que jamais, l'annonce française a joué un rôle majeur dans la dynamique des négociations tendues entre les parties. Trump dit, à ce moment-là, j'ai dit à Netanyahou, à Bibi, comme il l'appelle, Israël ne peut pas combattre le monde entier. Il restait, une fois qu'il a réussi à faire pression sur Netanyahou, à Trump, pour éviter l'échec de Biden, qui a empêché le Hamas d'esquiver la pression de ses alliés grâce à leurs divisions internes. Et là, on nous parle de la Turquie, c'est assez intéressant. Qui m'écrit là ? Et là, on parle de la Turquie. L'arrivée sur la scène d'un autre leader. Alors, Modi, écrit Libération, le président turc Recep Tayyip Erdogan, est sans doute ce qui a colmaté cette brèche. Anxieux de satisfaire Trump, le président turc a pesé de tout son poids pour obliger le Hamas à signer l'accord qui lui était proposé. S'il était convenu depuis des années que seule une pression forte sur les Israéliens et les Palestiniens pouvait mener à un accord de paix, aussi à mon avis, Trump est le premier président américain à être passé à la vitesse supérieure et avoir menacé les deux belligérants de sanctions impitoyables en cas de refus. Nous ne sommes pas sur une chaîne qui a une... un regard comment dire, très amical sur le président Trump. Libération non plus, mais Libération écrit Trump est le premier président américain à être passé à la vitesse supérieure et à avoir menacé les deux belligérants de sanctions impitoyables en cas de refus. Voilà. Les portes de l'enfer se seraient ouvertes alors non seulement sur le Hamas mais aussi sur le gouvernement israélien s'il n'avait pas accepté. Un accord de paix peut-il être acquis durablement par la violence ? Trump a cité cette nuit un verset du Nouveau Testament, « Heureux les artisans de paix », toujours en capital, hein, parce qu'il aime bien crier. Il a bien fait de ne pas rappeler la suite où Matthieu, l'apôtre, on arrive vite à la question principale, « Qui sont ceux qui hériteront de la terre ?» Pas mal ça. La réponse ne saurait tarder, et hier comme aujourd'hui, c'est d'elle que dépendra le sort de ces deux peuples meurtris. Voilà. On est ce matin entre... finalement, la satisfaction de cet accord de paix, appelons-le comme nous le voulons, et la crainte que cette paix momentanée ne tienne pas dans le temps. Ce qui s'est toujours passé précédemment dans la région. S'il te plaît Samuel, je ne comprends pas pourquoi Trump négocie avec le Hamas et pas un représentant palestinien pour l'accord de paix. Parce que celui qui détient les otages israéliens, c'est le Hamas. Celui qui dirige Gaza, c'est le Hamas. Celui que cherche à éradiquer totalement l'armée israélienne aux ordres du gouvernement Netanyahou, c'est le Hamas. Voilà. Et l'autorité palestinienne qui dirige peu ou prou la Cisjordanie, est totalement discrédité, notamment aux yeux des Palestiniens, en raison de son inefficacité et de sa corruption. Bah. Voilà, Abbas ne contrôle pas grand-chose. Mahmoud Abbas. Voilà l'élément de réponse. L'autorité palestinienne en Cisjordanie et Mahmoud Abbas n'ont pas la main sur grand-chose. Voilà, pour répondre à ta question. Ah, alors, d'aucuns peuvent dire bravo Trump, hein, puisqu'il y a eu un truc quand même. Et puis, alors, Libère nous rappelle quand même derrière cet engagement, cette mobilisation de Trump pour la paix dans la région, il y a peut-être sans doute, on n'est pas dans sa tête, mais une histoire d'ego. Merci Xéphar. Merci Aquarelle. Puis moi, j'ai envie de répondre, eh ben, on s'en fout en vrai. Qu'importe. L'important, c'est le résultat. Mais penchons-nous là-dessus. Libération. Donald Trump et son ego au cœur des négos. Libé. Ouais. Le président américain qui souhaite obtenir le prix Nobel de la paix ce vendredi, bon, c'est raté, hein, parce qu'il est tombé ce matin, le prix Nobel de la paix, a fait accélérer le cessez-le-feu par pur narcissisme. Bon, c'est une analyse. C'est une analyse de Benjamin Delisle, correspondant à Washington de Libé. C'est probablement bien son narcissisme ou son impatience qui ont prévalu pour permettre l'accélération formidable d'un processus qui paraissait pourtant il y a 10 jours à peine dans les limbes. Car il est tout de même certaine constance chez le locataire de la Maison Blanche, parmi elles l'ambition d'obtenir le prix Nobel de la paix, décerné ce matin. Depuis des mois, il opère une campagne agressive pour se présenter en grand pacificateur de son temps. Vous vous rappelez, à la tribune de l'ONU, il a affirmé qu'il avait réglé cette guerre qui était inarrêtable. Bon, après, les gens un peu sérieux qui se sont penchés sur cette guerre inarrêtable se sont rendus compte que Trump racontait un petit peu n'importe quoi là-dessus. Mais peu importe. Voilà. Qu'un caprice puisse avoir une quelconque influence sur le destin tortueux d'un conflit aussi complexe que celui qui opèse Israël ou Hamas peut sembler incongru. Et pourtant, selon le colonel Doron Hadar qui négociait avec les médiateurs pour le compte de Tsahal jusqu'à l'an dernier, tout le monde comprenait que le calendrier du Nobel était la boussole du président américain. Le risque majeur. Pourquoi Libé parle de ça? Parce que, on a envie de se dire, mais qu'importe la motivation de Trump, l'important c'est le résultat. Alors, c'est là où on peut comprendre peut-être l'article. Le risque majeur de tout ça, c'est que cette victoire de l'ego trumpien menace la paix future. Okay. D'abord à cause des détails écartés en cours de route, le désarmement du Hamas, le retrait de Tsahal de Gaza, mais surtout parce qu'on ne sait pas réellement comment tout ça va s'appliquer très précisément. Mais surtout, continuera-t-il vraiment d'œuvrer pour une résolution du conflit s'il n'obtient pas ce qu'il souhaite? Est-ce que Trump va maintenir ses efforts pour la région dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? Parce que c'est un effort de longue haleine. Les tentatives de paix dans la région qui ont échoué, elles sont légion. Hein, les appels tristement nombreux à lui décerner le Nobel témoignent de la fébrilité du monde quant à son engagement réel. Ainsi va la diplomatie selon Trump, c'est là qu'on l'a bien compris, jeudi. Le président ukrainien Zelensky lui proposait une recommandation au comité Nobel en échange de missiles Tomahawk. Ah non, bien sûr, le chat Stelio Contos, tu peux le faire découvrir, tu peux le faire disparaître. Hein. Tu peux le faire disparaître, t'as juste un clic à faire quelque part. Donc, interrogation. Manifestement, selon Libé, l'ego du président américain a été un moteur très puissant pour qu'il s'implique à ce point dans la recherche d'une solution de paix, mais est-ce que ce carburant va suffire quoi? Voilà. Il y a un article intéressant, mais Je vais vous le résumer en quelques secondes, parce que je ne vais pas pouvoir lire tous les articles ce matin, de Netanyahou, que seul contre tous et met dos au mur. Pourquoi ? Parce que Netanyahou, aujourd'hui, il est coincé entre donc la pression américaine, à supposer qu'elle se poursuive, et la pression de son allié d'extrême droite, hein, puisque Netanyahou a fait alliance avec l'extrême droite israélienne pour garder le pouvoir, pour sa coalition. On parle beaucoup de coalition en ce moment en France. Et l'extrême droite israélienne, qui est représentée par plusieurs ministres au gouvernement Netanyahou, évidemment, elle ne veut pas de la paix, hein. Elle ne veut pas de ce plan de paix, elle veut continuer à taper sur les Palestiniens, et elle rêve d'un grand Israël, c'est-à-dire avec un Gaza peuplé par des Israéliens, et une Cisjordanie peuplée par des Israéliens, et puis les Palestiniens dehors, quoi. Donc Netanyahou, il est coincé entre Trump aujourd'hui et ses alliés d'extrême droite. Parce que sans ses alliés d'extrême droite, Netanyahou, il dégage du pouvoir. Voilà. Puis après... il aura affaire avec la justice israélienne qui déjà l'a entendu récemment dans une affaire puisqu'il est poursuivi dans plusieurs affaires. Donc le comportement de Netanyahou dans les prochains jours, il faut le scruter de très très près, quoi. Merci Xéphar. Merci Tagada, merci Franz Müller, merci Louisinho. Voilà. Donc on va suivre ça dans les prochains jours. Apparemment, les partis du centre et de la gauche seraient d'accord pour continuer le plan de Trump. Oui, Nix, sans doute, mais ils ne sont pas au pouvoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des élections en Israël en 2026, élections législatives, élections générales, pour ce régime parlementaire. Donc, ces élections en 2026, elles sont très importantes aussi. Alors... c'est la une du Monde, c'est un article dans le Parisien, c'est la une du Figaro, c'est l'une de Libération, on vient de le voir, le Figaro, parlons-en, hein. Israël-Gaza, Trump ouvre un chemin pour la paix, je vais directement sur l'édito, parce que ça y est, les faits, les infos, on les a maintenant. Que pense Philippe, pardon, Philippe Gély de tout ça ? C'est l'avis de ce journaliste. Je vais directement à la fin de l'édito. Dans le Proche-Orient compliqué, les idées simples du président américain ont forcé le Hamas à renoncer aux otages, son seul atout dans son rapport de force. Pour l'amener à désarmer et Tsahal à se retirer, il entend placer Gaza sous tutelle internationale et se porte garant qu'il n'y aura ni expulsion des populations. Alors ça, on est très loin de la Riviera que Trump avait imaginée à une époque. Hein ? Avait imaginé à une époque où il dit « Bon, allez, on va... Gaza est détruit, on va construire des beaux hôtels, des belles maisons, puis on va chasser les Palestiniens, ils iront ailleurs, on va leur donner des sous, ça ira bien. » Aujourd'hui, Trump se porte en garant, il n'y aura ni expulsion des populations, ça c'est très nouveau, ni occupation ou annexion des terres. Voilà. Fort de ses soutiens arabes, il laisse sur la touche des Européens, désireux de peser sur le jour d'après. Enfin, en même temps, les Européens, fallait vous bouger le... Hein. Le problème de l'Europe, c'est que les Européens sont divisés, parce qu'ils sont 27, c'est compliqué de s'accorder, sur ce qu'il faut faire dans la région. Il y a des pays qui, depuis longtemps, veulent sanctionner Israël, par exemple, sur le plan économique. La France fait partie de ces pays. Alors qu'il y a des pays qui s'y opposent, notamment pour des raisons historiques, parfois comme l'Allemagne. Donc là, l'Europe... L'Europe, à part pour les initiatives individuelles de certains, comme la France et d'autres pays européens, de reconnaissance de l'État palestinien, trop tard, mais en tout cas, ils l'ont fait. Mais l'Europe, en tant que groupe, en tant qu'Union européenne, bah là, n'a pesé pour rien dans ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Fort de ses soutiens arabes, il laisse sur la touche des Européens désireux de peser sur le jour d'après. On ne les sollicitera que pour financer la reconstruction. Trump et son entourage sont convaincus des vertus pacificatrices de l'argent. Voilà. Mais ils tiennent compte désormais des aspirations nationales palestiniennes. C'est la clé pour passer d'un échange de prisonniers à un véritable processus de paix. Voilà une victoire pour Trump. Donc là, il n'y a pas beaucoup de surprises dans cet article du Figaro. La joie en Israël, mais aussi la prudence et l'espoir. On a vu tout à l'heure, la réaction d'Israéliens dans la rue. Et puis on a un décryptage de Patrick Saint-Paul qui se demande qui se pose cette question qu'on se pose tous. Est-ce que ce plan américain, c'est une nouvelle chance pour la paix ou est-ce que ça va être une énième déception, un énième espoir de paix dans la région? Il y en a eu plein depuis des dizaines d'années, mais qui va être une déception, quoi. On va lire cet article vite fait. Nouvelle chance pour la paix, pour l'interrogation. Rarement Israël avait paru si vulnérable que le 7 octobre 2023, attentat du Hamas. 2 ans plus tard, l'État hébreu paraît plus puissant mais aussi plus isolé que jamais. Netanyahou s'est enfermé dans une guerre sans fin contre le Hamas, dans une bande de Gaza transformée en champ de ruines, au prix de dizaines de milliers de morts civiles, entraînant une multiplication des condamnations internationales, une montée de l'antisémitisme aussi à travers le monde. C'est pourquoi le plan en 20 points de Trump, dont la première phase a donc été acceptée jeudi par Israël et le Hamas, apparaît comme la seule porte de sortie crédible à cette guerre et comme le seul espoir de ressusciter le processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Israël et le Hamas ont conclu un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages après de fortes pressions de Trump. Il s'agit d'un tournant important pour tenter de sortir du cycle actuel de violence. Donc là, on rentre dans le détail du plan, mais ça, on l'a déjà dit, nous, on ne va pas le redire. L'article s'interroge sur l'application de ce qui a été validé. Donc, les otages devraient être libérés lundi, d'après Trump, en échange du cessez-le-feu israélien, du retour de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et de la libération des prisonniers palestiniens. Processus très fragile qui peut dérailler à tout moment. Salut Samuel, tu n'as pas live hier et avant-hier ? Si, si, si. Mais alors, j'ai lancé à midi Ben hier. J'avais rendez-vous chez le médecin. Et avant-hier, si. Mais j'étais en MVP et donc c'était que sur Twitch. Désolé. Ce processus fragile peut dérailler à tout moment. Dans un second temps, le plan Trump prévoit que les dirigeants et les combattants du Hamas soient désarmés. Comment vont-ils accepter ? Bénéficient d'une amnistie ou d'un exil ? Une administration technocratique excluant le Hamas prendrait le relais sous la supervision d'un conseil international dirigé par Trump et des personnalités telles que, par exemple, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. L'armée israélienne se retirerait progressivement de Gaza, confiant la sécurité à une force internationale et à une police palestinienne nouvellement réformée. On est qu'au tout début de ça. À long terme, la réhabilitation de Gaza, les réformes de l'autorité palestinienne en Cisjordanie pourraient conduire à la création d'un État. 8 pays musulmans, dont les principales puissances arabes et la Turquie, soutiennent cet accord. C'est ça, Tim Crampy, c'est exactement ça. Pour le résumer, c'est exactement ça. Autre nouveauté, l'administration Trump reconnaît désormais les aspirations des Palestiniens à un État indépendant. Alors, il faut être tout à fait précis. Le plan de paix ne soutient pas la création d'un État palestinien. Le plan de paix reconnaît l'aspiration des Palestiniens à la création d'un État. C'est déjà ça, mais ce n'est pas la même chose. Trump n'a pas reconnu l'État palestinien. Alors on est loin quand même du mois de février où Trump avait ouvertement envisagé l'idée d'un nettoyage ethnique des Palestiniens à Gaza afin de faire place à une nouvelle Riviera au Moyen-Orient. Je vous en parlais tout à l'heure. Oui, Colin Dangereux, on en a parlé il y a une grosse demi-heure déjà. Et a décrété qu'Israël n'occuperait ni n'annexerait Gaza, laissant ouverte la perspective d'une solution à deux États. C'est un énorme changement de ton quand même de la diplomatie américaine. Alors, espoir, inquiétude, les écueils sont évidents, nombreux, Netanyahou et le Hamas pourraient signer l'accord sans intention de le respecter. Chercher à le saboter par la suite en rejetant la faute sur l'autre partie, grand classique. En toute bonne foi aussi, chacun pourrait se heurter à un mur de réalité. La reconstruction de Gaza pourrait s'avérer impossible à organiser ou à financer. L'autorité palestinienne pourrait être incapable de se réformer, oui. Le gouvernement intérimaire pourrait rester en place trop longtemps et enrayer la dynamique, oui. La politique israélienne pourrait ramener Netanyahou enfermé dans sa coalition avec l'extrême droite, je vous en parlais, vers une volonté d'annexion, oui. Quand bien même il ferait campagne en s'appuyant sur le plan Trump aux prochaines élections, 2026, rien ne l'empêcherait ensuite, Netanyahou, de torpiller habilement les efforts de paix, comme il l'avait déjà fait pour les accords d'Oslo. Rien non plus n'indique que la majorité des Israéliens ou des Palestiniens peuvent encore croire à une solution à deux États. Certains en Israël jugent qu'il faudra sans doute des décennies pour établir la confiance. Il est pas mal cet article. Je vais à la fin de la conclusion de cet article. Comme l'ont montré les précédentes tentatives d'une paix négociée entre Israël et les Palestiniens, l'espoir fragile est toujours à la merci des extrémistes des deux camps. Salut mon Joe. Excuse-moi, je suis pas très réactif en ce moment, Joe, hein. Hier, j'ai streamé 10 heures. Mais je suis un peu en retard sur mes mails, mais dis-moi s'il y a des urgences. Comme l'ont montré les précédentes tentatives d'une paix négociée entre Israël et les Palestiniens, l'espoir fragile est toujours à la merci des extrémistes des deux camps. Hein, des mesures de confiance sont urgentes des deux côtés et ne peuvent être repoussées pendant des décennies. Le désespoir entraînerait inéluctablement une nouvelle flambée de violence. Voilà. Seul Trump peut les imposer. Voilà. Donc là, on a lu Le Figaro, on a lu Le Parisien, on a lu Libération, on a lu Le Monde, La Croix consacre également un dossier. Extrémiste des deux camps, tu vois pas, tu comprends pas, Somwen? Non, il y a son mec qui dit quoi, extrémiste des deux camps. Bah, d'un côté, t'as un groupe terroriste qui s'appelle le Hamas, puis de l'autre, t'as l'extrême droite israélienne qui veut virer tous les Palestiniens de la région. Si pour toi, c'est pas extrémiste, ça. Il y a un des deux camps qui te séduit un petit peu? C'est ça l'idée? Merci beaucoup. Donc, dossier dans la Croix aussi. Fragile lueur d'espoir, vous voyez, le titre de La Croix, il résume un petit peu tout finalement. Voilà. Et puis l'humanité consacre également sa une à ce sujet, l'espérance et la prudence. Ouais, c'est de très belles photos. Alors l'humanité, c'est historiquement, c'est le journal, le quotidien pro-palestinien. C'est un journal qui soutient les Palestiniens depuis toujours. Hein. Quand plus personne ne parlait de la Palestine et du Proche-Orient, parce qu'à une époque, quand j'ai commencé ce métier il y a 30 ans, on parlait du processus de paix israélo-palestinien quasiment tous les jours, parce qu'il y avait des vrais espoirs à l'époque, Shimon Peres, tout ça, le processus de paix d'Oslo. Puis après, les partisans, les extrémistes des deux camps, tiens. Les extrémistes des deux camps ont gagné. Voilà. Et puis la paix, on l'a oublié. Tout le monde a oublié ça. La communauté internationale n'en parlait plus. Les pays arabes, progressivement, oubliaient les Palestiniens. Et les Européens s'en occupaient plus. Les Américains non plus. Il y a un journal qui continue à parler des Palestiniens régulièrement, c'était l'Humanité. Voilà, depuis toujours. Et donc, évidemment, l'humain se félicite de ce qui arrive, quoi. L'espérance et la prudence. Gaza qui entrevoit la fin du cauchemar. Voilà, je vais vite parce qu'en fait, maintenant, les infos, vous les avez. Voilà, l'opinion, on parle aussi ce matin, alors qu'il y a un journal qui n'a rien à voir avec l'humanité. Hein. Mais voilà, les raisons d'y croire. Les raisons d'y croire. C'est intéressant ça. Tiens, je vais à la fin d'un article intéressant dans l'opinion. C'est marrant parce que dans les commentaires de certains, on voit quand même où les avis, hein, même s'ils ne sont pas exprimés aussi clairement, où cacha le boss, les extrémistes des deux camps mettre sur le même plan un parti politique, donc on parle de l'extrême droite israélienne, hein, et un groupe terroriste n'est pas très honnête intellectuellement. Je sais pas, moi je les mets sur les deux, je les mets sur le même plan. D'un côté, tu as un groupe terroriste qui a tué. Des innocents israéliens, des pères, des mères, des enfants. Et puis de l'autre, une extrême droite israélienne qui a décidé de taper aveuglément sur la bande de Gaza et qui a tué des dizaines de milliers de civils innocents. Donc moi, je mets ça sur le même plan. Voilà. Et je l'assume. Je vais à la fin de l'article. Là est peut-être le plus grand mérite de Trump, sa force persuasive a non seulement permis la libération imminente des otages, mais elle a aussi réveillé les partisans du camp de la paix qui ont depuis repris espoir. La paix n'est jamais le fait d'un seul homme, mais l'histoire retiendra peut-être que Donald Trump a su ouvrir la voie. Il me reste du temps, pas 11h53. Il faut que je parle de la crise politique en France. Bon, ça, c'est un truc qui va provoquer plein de débats dans le chat. À mi-modo, je vous préviens. Voilà, parce qu'on va parler des Palestiniens et d'Israël et de la France insoumise, de LFI et de Mélenchon. Donc ça, on a l'habitude ici. Tu rajoutes une polémique sur une polémique. Donc, tout le monde s'accroche? C'est parti. C'est dans l'opinion. Force les monos. Jean-Luc Mélenchon aurait-il la paix honteuse? S'interroge Antoine Oberdoff dans l'Opinion. Un silence évocateur. La signature du plan de paix à Gaza n'a entraîné aucun communiqué de LFI. Au moment où le journal est parti à l'imprimerie hier soir, peut-être qu'il y en a eu ce matin. Hein. Le 7 octobre 2023, il n'avait pourtant fallu que quelques heures aux mélenchonistes pour replacer le pogrom du Hamas dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne. Étrange retard à l'allumage, après des mois à dénoncer un génocide, rares sont les élus insoumis qui osent saluer le succès diplomatique de Trump jeudi. Du bout des lèvres, Jean-Luc Mélenchon s'est associé à la joie, à l'espérance des familles de tous les otages et prisonniers. Après tant de morts et de mois de génocide, un cessez-le-feu est à l'ordre du jour à Gaza, a-t-il acté sur X? Tout en regrettant que les Palestiniens aient à subir un nouvel ordre politique étranger. Rima Hassan, icône palestinienne de la gauche insoumise, parle pour sa part d'un plan de paix entre guillemets, à la dimension néocoloniale et néolibérale, et l'eurodéputé LFI d'exiger pour assurer la fin du génocide que la communauté internationale prenne des sanctions contre Israël. Cette extrême méfiance, donc de LFI, merci Drakeos pour ce raid de fou, je suis sûr que vous étiez là-dessus aussi ce matin, ami Drakeos, ami de l'actualité. Cette extrême méfiance de LFI vis-à-vis de ce plan de paix tient à la matrice intellectuelle de LFI, selon en source. Salut Drakeos. Le philosophe de la pensée juive, Raphaël Amselem, quand on pense que la permanence du conflit résulte d'un mal radical, le sionisme, vu comme intrinsèquement associé au suprémacisme, au colonialisme et à l'impérialisme, il n'y a jamais de paix réelle, seulement des parenthèses de paix formelle. Les bombes sur Gaza ont cessé de pleuvoir, le plan de vol de Jean-Luc Mélenchon, lui, s'en trouve déchiré, estime le journaliste. Sans conflit, LFI perd un puissant ressort de mobilisation, l'indignation morale contre les soutiens supposés de Netanyahou. Ce retournement de situation qui rouvre la question de la solution politique malgré toutes ses limites, ses contradictions, vient lourdement perturber la stratégie d'utilisation politique du conflit par LFI, estime qui parle un communiste. Christian Piquet, ancien allié de Jean-Luc Mélenchon du temps du Front de Gauche. Salut Drakeos. Oh, je vais bien, moi, je vais bien. On se régale avec l'actu. Une sénatrice socialiste, Laurence Rossignol, dit « Mélenchon, c'est le gars qui a acheté un stock d'après-ski et qui vient d'apprendre qu'il n'y aura pas de neige cet hiver. Hein » Laurence Rossignol, qui, elle aussi, à une époque, a cheminé avec Jean-Luc Mélenchon au sein de la gauche socialiste. Puis maintenant, ils ne se parlent plus trop, quoi. « Palestiniens et Israéliens pleurent de joie, se prennent dans les bras pendant que les insoumis, eux, acclament les rescapés de la flottille pour la paix, dont je vous ai beaucoup parlé ici. » Place de la République, les manifestants vibrent pour ces parlementaires et les filles en kéfié de retour des prisons israéliennes. À aucun moment n'ont été évoquées les négociations en cours, regrette l'ancien trotskiste Christian Piquet. Et pour cause, il est moins facile de parler du contenu de la solution politique que d'enflammer des foules aux cris de Israël assassin. Depuis les européennes de 2024, le tribun insoumis, donc Jean-Luc Mélenchon, n'avait cessé d'attiser un clivage simple entre le camp de la paix et celui des soutiens inconditionnels d'Israël entre génocidaires et génocidés. En somme, cette division binaire s'effondre avec le cessez-le-feu obtenu par Donald Trump en échange de la libération des otages. À présent que la question du jour d'après se pose à Gaza, Jean-Luc Mélenchon va devoir dépasser son campisme réflexe pour répondre à des questions concrètes, solution à deux États ou pas, désarmer le Hamas ou pas. Bon, c'est une analyse politique. Hein. Pour résumer, ceux qui ne l'auraient pas compris, ce que... La thèse du journaliste Antoine Bordoff, c'est que LFI et Jean-Luc Mélenchon ont instrumentalisé la cause palestinienne à des fins de politique intérieure. Je vous résume ça en une phrase. C'est ce que voulait dire ce journaliste. Après, vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse? Mais je vous le lis, c'est dans l'opinion. Mais je vous le lis parce que souvent vous entendez parler de LFI et de la Palestine et vous dites mais pourquoi il y a des pourquoi ça déba, pourquoi il y a autant, notamment sur Internet, pourquoi il y a autant de débats, de polémiques sur le sujet? Bah parce que là encore, je résume en mode café du commerce, je résume extrêmement. Hein. Bah, certains estiment que les seuls vrais défenseurs de la cause palestinienne en France, c'est LFI. Hein? Et certains, y compris à gauche, estiment que LFI a instrumentalisé cette question à des fins électorales. En disant que Mélenchon, il n'a pas toujours été aussi au chevet des Palestiniens dans sa carrière politique que depuis quelques années, quoi. Voilà, je vous résume un peu les deux théories qui s'opposent. Bon, les amis, nous avons consacré 1h15 à peu près. C'est beaucoup et c'est très peu. À ce sujet, voilà, c'est évidemment le sujet sur lequel nous allons passer le plus de temps ce matin. Donc on pourra en parler pendant des heures. Là, 1h44. Voilà. Les habitués de cette chaîne savent que je parle de ce sujet pendant des heures, littéralement tous les jours. Voilà. Mais qu'on peut pas en parler 3 heures tous les jours, parce que 3 heures, c'est la durée de cette revue de presse. Et que je parle aussi du reste de l'actualité. Donc c'est à la fois beaucoup et peu, mais on en reparlera lundi, on en reparlera mardi, on en reparlera mercredi, etc. Hop. Je vous mets la flèche, pardon, maintenant en face de la crise politique en France, un nouveau Premier ministre, point d'interrogation, puisque c'est ce dont on va parler, pour que ceux qui nous rejoignent là pendant la revue de presse, ceux qui nous rejoignent maintenant, puissent savoir où on en est, voilà, et que ça déboule pas dans le chat, comme à une époque, on disait, ouais! Ça parle pas du Proche-Orient ici, hein? Je le savais! Voilà, comme ça vous pourrez leur dire qu'on en a parlé un petit peu quand même, vite fait, quand même. Merci Christophe. Alors, ça aussi c'est intéressant. Qu'est-ce qui va passer en France? Hein? Alors, dissolution, démission, cohabitation de droite, de gauche, Borloo Premier ministre, Cazeneuve Premier ministre, Le Cornu encore nommé, Samuel Etienne à Matignon, voilà. Quelqu'un va passer. Moi, je te ferai des. Ouais, bah, juste humaine a raison. Moi, je te ferai des chifoumis là-dessus, ça réglerait tout. Hein. Oui, Borloo, c'est une hypothèse. Ouais. Quelqu'un me dit quoi, quoi, Borloo? Ouais. Alors voilà, on va consacrer un petit peu de temps à cette histoire, sachant qu'il faut garder un tout petit peu de temps, mais pas trop, pour vite fait parler du Covid et de Battlefield 6 aussi. Bon, je vous abandonne à midi 50, donc on a un petit peu de temps quand même. Ok, let's go. Merci Franck Miller pour ce raid, c'est adorable. Vous étiez sur quoi, Franck? Let's go. Quelle piste pour le futur gouvernement? Là, j'ai plein d'articles aussi à vous lire. Hein. Plein, 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 plein. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Quelle piste pour le futur gouvernement? C'est la question qu'on se pose un petit peu quand même, quoi. Il paraît qu'il y aura un Premier ministre d'ici ce soir. Le Premier ministre, donc nommé ce vendredi, a priori. On me dit qu'effectivement, Camille me rappelle qu'il y a une réunion des partis politiques français, sauf RN et LFI, à 14h30 avec le chef de l'État. Voilà. Donc, un Premier ministre aujourd'hui, merci à Sadé, tu régales, des ministres nommés ce week-end, ok, le début des débats budgétaires lundi, parce qu'on n'a toujours pas de budget, voici le schéma idéal de l'exécutif, mais est-il réalisable? Ah, ça c'est le schéma de l'exécutif. Ce gouvernement manquait d'originalité, je plaide coupable. Mercredi soir, les ministres et leurs conseillers ont sursauté en entendant sur France 2 le mea culpa de Sébastien Lecornu. On s'est dit que ça allait être le grand reset dans l'équipe gouvernementale, rapporte un collaborateur ministériel. À peine 4 jours après la nomination d'émission gouvernementale express, vous connaissez les épisodes, le bonneteau politique fait à nouveau transpirer le camp présidentiel. Mais une fois n'est pas coutume, le suspense devrait de courte durée. La dernière fois, il a mis 3 semaines à former son gouvernement. Le Cornu, ça va. Hein. 3 semaines pour former un gouvernement qui a sauté au bout de quelques heures. Tout ça pour ça. Donc là, au moins, on devrait être fixé assez vite. La présidence a annoncé que le nom du nouveau locataire de Matignon serait connu ce vendredi. Pas demain samedi, pas après-demain dimanche, pas lundi, mais vendredi. Bon. une allocution du président ce soir reste sérieusement envisagée. Voilà. Avant la nomination des ministres, peut-être dimanche soir, et un conseil de l'Élysée consacré au budget, lundi matin. Bon. Les amis, si à un moment, pop dans l'info, un horaire d'intervention d'allocution du président Macron aujourd'hui, ce soir, vous me le dites. Parce qu'on ira en réact. Bonne chance pour le permis, RVG. Voilà. Un dirigeant centriste rigole, il doit trouver le mouton à cinq pattes. Ça peut pas être un socialiste. Ça peut pas être un LR de droite. L'hypothèse Borloo n'existe pas, estime ce centriste. Donc, à part un profil de la société civile, je ne vois pas. Les noms de François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, et Nicolas Revel, ancien directeur de cabinet de Jean Castex, circulent comme à chaque remaniement. Ah oui, c'est la tentative de... Ça marche plus la politique ? Ah bon, on va nommer un non-politique. On va nommer un haut fonctionnaire, on va nommer un expert, un technicien, voilà. Pour donner l'illusion qu'on passe à autre chose. Voilà. Sauf qu'en fait, ça n'a aucun sens puisque tout le monde est politique. Voilà. Si vous lisez les interviews dans les médias de Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, ces dernières années, hein, parce que c'est le patron de la Banque de France, bah, il y a des gens qui vont dire « Bon, on l'a nommé Villeroy de Gallo parce que c'est un profil technique, le mec, c'est pas un politique, donc tout va bien. » Bah, si vous lisez les interviews de Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France depuis quelques années, bah, vous vous rendez compte que le monsieur, c'est un libéral, qui a une formation économique assez poussée, et il a une vision libérale de l'économie, quoi. Ah, on va dire que c'est pas un dangereux gauchiste, quoi, pour dire les choses. Donc, il est où le profil technique, là ? Donc, ça veut rien dire, ça, profil technique. C'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de parler à papa. Enfin, c'est mon avis, hein, je peux me tromper. Hein. Tout est politique. Mais le successeur de Lecornu pourrait s'appeler Sébastien Lecornu.
Quoi ?
Attends. Dimanche, Lecornu nommé. Lundi matin, il démissionne. Ok. Macron est d'accord pour la démission. Ok. Après, on apprend que Lecornu, Macron lui a demandé de continuer à réfléchir à un gouvernement. Quand même. Après. Alors qu'il vient de démissionner. Et que Macron était d'accord. Et de trouver une coalition pour le soutenir. Et Lecornu dit, ok, je vais le faire. Mais je ne serai pas Premier ministre, hein. Attention. Hein. J'ai déjà donné. Et là, on apprend que finalement, c'est peut-être lui qui va être nommé. Pourquoi pas ? Ma mission est terminée, a-t-il martelé sur France 2, je crois que c'était lundi soir, je crois. Enfin, en tout cas, on l'a écouté, nous. Sans préciser sa réponse en cas d'une proposition de reconduction. Léa Salamé lui a dit, mais vous, si on vous propose, vous y retournez ? Puis il n'a pas vraiment répondu. Voilà. En plus, sa cote de popularité, elle a rebondi parce que, je sais pas, les Français l'ont trouvé plutôt pas mal dans ces interventions-là. Voilà. Et si c'était donc à nouveau lui, l'effet serait dévastateur dans l'opinion, prédit un conseiller ministériel. Quel qu'il soit, le choix du Premier ministre déterminera le reste de l'équipe. Pour éviter les bisbilles aujourd'hui exacerbées, Lecornu plaide pour un gouvernement dit technique. Ça veut rien dire, ça. C'est de la flûte, les gouvernements techniques. Déconnecté 2027. Oui, on va nommer des ministres, mais qui n'ont aucune ambition politique. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Oui, en général, quand tu acceptes un poste de ministre, c'est parce que tu n'as aucune ambition politique. Bah oui, bien sûr. Oui. Si la suggestion est reprise par Macron, les ambitieux Bruno Retailleau et Gérald Darmanin devraient faire leur carton. Actuellement, le secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin, fait chauffer son téléphone pour débaucher quelques serviteurs de l'État, la plupart hauts fonctionnaires, mais un haut fonctionnaire, il a une couleur politique, il a forcément des valeurs. Dans cette configuration, la haute autorité pour la transparence de la vie publique devrait passer au crible les profils en un temps record, blablabla. Alors, les services de l'État examinent toutes les options, parce qu'on est un peu à la rue pour un projet de budget, par exemple. Faut-il nécessairement un gouvernement nommé pour déposer le budget ? Est-ce que le Premier ministre ne peut pas le faire tout seul ? Allez hop ! Un Premier ministre suffirait. Si l'équipe n'est pas trouvé à temps, est-ce que le ministre de l'économie démissionnaire ou le chef de gouvernement peuvent-ils être auditionnés devant les commissions parlementaires des finances ? Non. Sans précédent sous la 5e, les experts creusent toujours la question, un cas inédit, un de plus. Je résume, c'est le bordel. Voilà. Joli titre de Libération sur le même sujet. Hein. Macron n'est pas en quête d'un premier de cordée, comme en alpinisme, frison roche, tout ça, mais un dernier de corvée. C'est joli. Va-t-il faire entrer la gauche à Matignon? Tout est possible, les gars, c'est de la politique. Merci, Pougna. Va-t-il faire entrer la gauche à Matignon? Va-t-il nommer un premier ministre de gauche? Rappeler une vieille gloire consensuelle, Borloo. Reconduire Sébastien Lecornu. Hein? Le flou domine encore alors que le président doit acter son choix d'ici ce vendredi. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Merci Ézéchiel qui nous remercie pour le fait que ce soit un podcast maintenant. Toute cette revue de presse du matin, elle est en podcast l'après-midi hein, à partir de 16h en général depuis quelques semaines là. Voilà, c'est pour que vous puissiez l'écouter quand vous voulez. Lisons cet article de Libération vite fait. Voilà, Libération rappelle un petit peu l'intervention de Lecornu sur France 2 qui a dit que oui, il a démissionné, d'accord, mais bon, le président Macron m'a demandé d'échanger avec les partis. Puis alors, un truc, surprise incroyable, moi j'ai constaté qu'il y avait une possibilité de majorité à l'Assemblée, en fait, de gens de bonne volonté autour d'un programme. Je sais pas, il a pas dit vraiment qui. Peut-être par exemple le socle commun, un peu de centre, un peu de macroniste, un peu de droite, et puis des socialistes. Voilà. Et en fait, ce qui était impossible lundi matin devenait possible quelques heures plus tard. Bon, allez, let's go. Alors, à quel prétendant Macron tentera-t-il de faire chausser la pantoufle de verre? En quête de son 8e Premier ministre. Il y en a qui collectionnent. Ah oui, t'as raison, il manque un mot. Également, désormais en podcast. Ah ben non, non, également désormais en podcast, c'est du français journalistique. Il manque des mots. Non, la matinée. En fait, il faut l'entendre à l'oral parce que je me suis fait engueuler par quelqu'un dans le chat. Hello Sam. Merci Buxology. Ton titre de live ne veut rien dire. Peut-être également disponible au lieu de également désormais. Si, en fait, il faut l'entendre à l'oral. La matinée Étienne, également, désormais en podcast. Tu vois, c'est de la radio. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est une insulte aux Français. Hein, aux Français écrits, quoi. Tu vois, c'est de l'oral. Tu es au café, tu dis la matinée Étienne, également, désormais en podcast. Tu vois. Voilà. By now, exactement. Ça fonctionne. À l'oral. Alors pendant que je vous échangeais sur est-ce qu'il manque une virgule ou pas, vous m'excusez, je m'interroge sur l'avenir de la France. Bim ! Alors, en quête de son 8e Premier ministre, parce que certains collectionnent les cartes Pokémon et certains collectionnent les Premiers ministres, ça me semble plus intéressant que ce débat sémantique, il pourrait choisir un profil technique, rappeler une vieille gloire de la politique qui ne révulserait ni à gauche ni à droite, piocher dans son camp. Tiens, un macroniste, ce serait une idée un peu surprenante. Voire renommer un Lecornu essoré jusqu'à la moelle. Voilà. Ce matin, enfin jeudi matin, alors quelqu'un disait dans le chat, quoi, Borloo ? C'est l'improbable code de Jean-Louis Borloo qui est remonté. Waouh, Jean-Louis Borloo. Ouais. L'intéressé assure qu'il ignore absolument tout et n'a eu aucun contact avec l'Élysée. Retiré de la vie politique depuis 2014, ça fait 11 ans. C'est qui, demande Weirchild? Ah, ça a été un... Ah, oh, Borloo, comment t'expliquer Borloo? Il n'a pas été ministre de la ville, notamment. Il avait une façon un peu détendue de parler et tout. Comment dire, il était un peu... Il était marrant parce qu'il était un peu... Il parlait pas comme les hommes politiques, il avait un côté un peu... Tu vois Colombo? Tu vois Colombo un peu? Colombo, l'inspecteur là. Il y a un petit côté un peu Colombo un peu. Ouais. Oui, je me rappelle des guignols, oui, mais enfin, on va pas résumer la politique aux guignols, quoi. Oui, c'est ça, c'est lui qui avait vu son rapport sur les banlieues partir à la poubelle. Il avait écrit un rapport passionnant sur les banlieues. Et puis le président de l'époque, je sais plus qui c'était. N'avait rien retenu de ce rapport et du coup il était parti fâché. Oui, c'est vrai. Non, il s'était vraiment intéressé à ça. Non conventionnel, voilà. Odaris nous rappelle que Borloo était assez plébiscité parce que non conventionnel. Maire de Valenciennes, dans le Nord, très respecté, tout à fait. Voilà, merci. Alors, si jamais Borloo est nommé Premier ministre, je vous ferai toute l'historique de Borloo. Hein. Mais là, on va pas se pencher sur toutes les hypothèses parce qu'on va y passer littéralement le week-end, quoi. Hein. Voilà, il a été ministre du Logement et de la Cohésion sociale. C'est un mec qui réfléchissait à la ville, à la cité, aux banlieues. C'était pas inintéressant, en vrai. Il a fait quoi depuis 2014? Je sais pas. Les rumeurs disent qu'il a beaucoup joué à Call of, mais je suis pas sûr de cette info. Voilà. Si Borloo est nommé Premier ministre, on se fera une spéciale Borloo, vous inquiétez pas. En attendant, continuons. Oui, Call of Duty, le jeu là. Alors, certains veulent encore croire Emmanuel Macron capable de tirer les leçons des législatives perdues. On a essayé la droite, on a essayé le centre, pourquoi ne pas essayer la gauche? A suggéré la ministre démissionnaire de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Voilà. Une option fortement conseillée au chef de l'État par un de ses proches. S'il doit y avoir une dissolution, il faut lever toutes les hypothèques, hein, et les hypothèses aussi. Les électeurs ont droit à ça, ceux de gauche comme les autres. Les écologistes et Fabien Roussel, donc le communiste, ont uni leur plume dans une déclaration au président. Monsieur le Président, entendez le pays, réclamant une cohabitation. Pardon. Merci Buxologie. Merci Justine. Merci Buxologie, hein, pour ton message tout à l'heure. En fait, en vrai, t'as raison, ma phrase. Mon titre, il est pourri, mais comme je suis une mauvaise foi, j'ai pas voulu le reconnaître. Mais je pense que tu l'as compris. Merci Buxologie, merci Justine. Non, mon titre de stream, il est pourri en vrai. C'est pas français. Mais comme je suis une mauvaise foi, comme les hommes politiques, j'ai fait genre. Ouais, arrêtez, on parle de choses sérieuses là. Mais en vrai, il est complètement claqué au sol. Ça n'a aucun sens. Je suis d'accord. Mais bon, on est tous un peu de mauvaise foi, quoi. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, une cohabitation de gauche. Les socialistes, les communistes, les écologistes disent, bah allez, c'est notre moment maintenant. Hein. C'est notre moment. Hein. Cohabitation de gauche, quoi. Voilà. Sauf que le cornu sur France 2, là, avec Léa Salamé, il a semblé écarter cette cohabitation de gauche. Vous avez toujours 210 députés, a-t-il déclaré, qui veulent une plateforme de stabilité. Sous-entendant que l'alliance du bloc centriste et de LR, ce qu'on appelle le socle commun, restait la plus légitime à gouverner. Tu es de gauche ou de droite, Samuel me demande, de quelqu'un dans le chat me demande the truth. Comme social truth. Je suis Samuelien. Étant donné que je suis moi-même candidat à la prochaine présidentielle de 2027, je suis surtout pour ma pomme. Je suis surtout pour ma pomme. Mais je vous en reparlerai. Je vais vous régler tout ça, moi. Je vais vous régler tout ça, moi. À un moment, là, je suis en lit, ça va aller. Hein. Donc, à un moment, je vais m'occuper de tout ça. Je vais vous régler tout ça. Donc, voilà, gauche, pas gauche. Alors, si Libération a raison et que Macron ne songe pas réellement à nommer un premier ministre de gauche, un vrai ministre de gauche, hein, pas bon, bref. Est-ce qu'il va pas jouer à fond le socle commun et renommer le cornu? Le cornu. Voilà. L'insistance de Le Cornu à répéter qu'il n'a pas d'ambition présidentielle. Ah oui, les fameux hommes et politiques qui disent qu'ils n'ont aucune ambition présidentielle. Hein? Peut sonner comme une offre de service. Et je vous le dis, bizarrement, sa cote de popularité, elle remonte chez les Français d'après les sondages. Le Cornu. Donc, à voir, à voir. Si vous apprenez ce soir que Le Cornu est renommé, vous penserez à nos échanges de ce matin. Ah, un membre de la société civile. Hein. Voilà, un gouvernement technique, ça c'est le fameux truc, la solution miracle là. C'est aussi une possibilité dont parle Libération. Face à la crise, l'hypothèse d'une nomination comme Premier ministre d'un profil non politique, ça n'existe pas, un profil non politique, hein, revient sur la table, un modèle appliqué dernièrement en Italie avec Mario Draghi. Une équipe complètement déconnectée des ambitions présidentielles pour 2027, la formule glissée par Le Cornu au cours de l'interview du 20h de France TV, fait ressurgir l'hypothèse récurrente sous Macron d'un Premier ministre issu d'aucun parti, capable de faire adopter les textes budgétaires pour l'année 2026 et de gérer ensuite les affaires courantes sans risquer un énième renversement. Donc l'idée d'un homme ou d'une femme, issu de la société civile, c'est-à-dire qui n'a pas un parcours politique, qui n'a pas été ministre, qui n'a pas été dans un parti, voilà. C'est l'idée. Hein. Certains noms ont été rendus familiers à ce propos, comme le président du Conseil économique, social et environnemental, Thierry Baudet, voilà, ancien instituteur mutualiste. Mm. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Pascal Lamy, ancien commissaire européen. Voilà. Mais si on gratte un peu, si on va voir toutes les interviews de ces gens, bah, ces gens, ils pensent, ces gens, ils ont des idées, ces gens, ils ont eu des prises de position, bien sûr. Ils ont, donc quelques, c'est forcément des profils politiques. Tu vois ? Regarde, Pascal Lamy, ancien commissaire européen, et libère appel d'obédience socialiste. Bah oui, mais bien sûr. Bah oui. Le gouverneur de la Banque de la France, c'est pas un trotskiste. Hein. Dans un autre style, des personnalités issues du monde de l'entreprise, patronale et syndicale, ont aussi vu leur nom circuler au jeu du qui pour Matignon. Jean-Dominique Sénard, président de Renault, passé chez Michelin et Total. Donc, sûrement un gauchiste, je pense. Pascal Desmurger, le directeur général de la MAIF, l'ancien secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, le grand réactionnaire de droite. Non, je plaisante, hein, je troll. Et... Oui, c'est ça. Alors technique, pardon, je peux être vulgaire deux secondes ? Gouvernement technique, mes couilles, en fait. C'est... Vous voyez ce que je veux dire ? Un moment, faut dire les choses, quoi. L'atout du gouvernement technique est souvent avancé, c'est que ça permettrait de mettre enfin des personnes compétentes à la tête de l'État. Mais c'est de la connerie, ça. Hein. Benjamin Morel, le constitutionnaliste, commente, mais cette idée n'est pas forcément juste, car des politiques peuvent être compétents et avoir des cabinets qui fonctionnent suffisamment bien pour gérer leur administration. C'est un exemple que je prends souvent. Les gars, allez, allons-y, gouvernement technique, mettons des spécialistes, des techniciens, plutôt que des hommes et des femmes politiques. Allez, ok. Ministère de la Santé, on va prendre un spécialiste. On va mettre un médecin. Pourquoi un médecin serait un bon ministre de la Santé ? Mais vous connaissez des médecins ? Il y a des bons et il y a des mauvais, puis surtout, ils ne sont pas d'accord, les médecins, sur ce qu'on doit faire de l'hôpital, de la médecine publique. Chacun a son avis, sa vision, une vision politique d'ailleurs. Donc pourquoi un médecin serait un bon ministre de la Santé ? Ça n'a rien à voir. Tu peux être un excellent médecin et le pire ministre de la Santé ever. Dans le passé, il y a eu des ministres des Sports qui étaient des sportifs. Mais pourquoi un sportif peut être un bon ministre des Sports ? Le mec, il peut être super bon sur 400 mètres ou sur un tatami et être un ministre des Sports nul. Et de même, tu peux avoir un bon ministre des Sports, le mec, il fait jamais de footing. Non. Un économiste. Allez. À l'économie, on va mettre un économiste. Hein ? Bon, bah, c'est une bonne idée, ça. Mais ça veut rien dire. Un économiste. Mais ils sont d'accord sur rien, les gars. Il y a les économistes libéraux, il y a des économistes keynésiens, il y a des économistes qui sont pour l'intervention de l'État, d'autres pour réduire les impôts. Mais quel économiste on nomme ? Quel technicien ? Quel spécialiste ? Donc forcément, quand on nomme un économiste, bah, on nomme quelqu'un qui a une vision de ce qu'il doit faire. Donc on nomme un politique. Ah, j'aime bien les messages qui me challengent un petit peu. Docteur Brio. Ah oui, parce qu'c'est docteur, donc il est pas content de ce que je dis des médecins. Tu représentes parfaitement le vide intellectuel. Mais non ! Ah non, Sarah, elle a supprimé le message. Ah ben non, c'était vachement... Non, en vrai, premier degré, c'était intéressant. Tu représentes parfaitement le vide intellectuel. Moi, je mets Docteur Brio en avant. Tu représentes parfaitement le vide intellectuel et la période que nous vivons. S'obliger à enfermer des gens dans des cases à partir d'une déclaration. Ah oui, tu vois, les déclarations des gens ne nous disent pas ce qu'ils pensent. Docteur Brio, tu es sur un terrain glissant. Vite, vite mettre une étiquette sur le front des gens. Bah ouais, c'est notre rôle en fait de décrypter. C'est pas parce qu'un homme ou une femme vont arriver et te dire, Docteur Brio, et aux Français, mais moi je suis pas politique. Hein. Moi je suis un technicien, je suis un spécialiste. Hein. Ne m'embêtez pas avec vos questions. Hein. C'est pas parce qu'il te le dit que tu dois le prendre pour argent comptant. Notre métier, nous, c'est justement d'analyser les propos de ces gens. Voilà. Donc oui, mon métier, c'est de mettre des étiquettes, justement. Hein? De penser, puisque tu parles de vide intellectuel. On n'avancera jamais avec cette bassesse de vue. Ouais. Non, justement, c'est pour ne pas se faire enfumer par les gens qui nous vendent ce genre de choses, en fait. C'est justement de mettre de la réflexion là où on veut nous vendre des étiquettes, puisque tu parles d'étiquettes. En fait, les partisans de ces solutions techniques nous vendent l'étiquette technique, nous vendent l'étiquette expert. Faut pas se faire avoir, en fait. Justement, il faut l'analyser un petit peu. Voilà. Après, un profil technique peut être un excellent ministre aussi. Tu vois? C'est du cas par cas, en fait. Alors, en Italie, ça a un peu marché avec Mario Draghi, ancien gouverneur de la Banque d'Italie. Voilà. Qui avait formé un gouvernement d'union alors qu'il y avait une crise politique en Italie. Et évidemment, si on se penche sur le parcours de Draghi, on va lui coller une étiquette politique au regard de ses prises de position, de ses déclarations et de la façon dont il a gouverné l'Italie d'ailleurs. Hein, certains dans le chat vont nous dire bah, Draghi, c'était plutôt un ministre qui a mené une politique de ce type-là. Voilà. Mais ça a plutôt marché en Italie, effectivement. Sans doute parce que l'homme avait des qualités propres en négociation, notamment. Qui ont fait qu'à un moment il a réussi à gérer le truc. C'est ce que je disais en fait. C'est une question d'homme et de femme finalement. Mais ce modèle, explique Christophe Bouillot, qui est professeur à Sciences Po Grenoble et spécialiste de la politique italienne, reste difficilement transposable par manque d'autres élites légitimes que les élites politiques en France. D'autant plus que, explique le chercheur, le président de la République est neutre dans le système transalpin. Eh oui. Donc avec beaucoup moins de poids politique que notre chef de l'État. À nous, élus au suffrage universel direct. Et déplore Benjamin Morel, jusqu'à présent, Emmanuel Macron n'a pas voulu lâcher la main. Voyez, c'est pas. Moi, je comprends cette tentative, le fait d'être séduit par le fait de mettre des gens pas politiques à la tête des ministres, mais je pense que c'est un peu un écran de fumée, quoi. Voilà. Et encore une fois, c'est pas parce que je le dis que c'est vrai, hein. Je peux complètement me tromper, et c'est peut-être Docteur Brio tout à l'heure qui avait complètement raison. N'oubliez pas que quand j'exprime un truc ici, ça ne vaut rien. Alors, je le dis parce que c'est ma chaîne, hein, et donc on me reproche assez de jamais donner mon avis. Hein. Il y a toujours des mecs qui ont dit, oui, mais tu nous lis des articles. Les habitués, ils sont habitués à ça. Ouais, tu nous lis des articles, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, à peu près toutes les 30 secondes, on a ce commentaire dans le chat. Donc, je vous lis des articles, je vous donne aussi mon avis parfois. Voilà, mais cet avis, qu'est-ce qu'il vaut? Mais rien! Mais que dalle! Alors, c'est mon avis parce que c'est ma chaîne, donc je le donne. Mais qu'est-ce que ça vaut? Que dalle! Voilà. Hein. Que dalle. Enfin, ça vaut pour moi parce que j'essaie de construire le raisonnement et je vous le propose, mais vous pouvez tout à fait être opposé à ça et vous pouvez avoir raison surtout. Et parfois même, ça m'arrive de changer d'avis sur un sujet. Par exemple, sur la réforme des institutions en France, moi j'ai longtemps été quelqu'un qui disait que le système de la Ve République était un bon système, puisqu'il avait permis notamment de sortir de l'instabilité politique des 3e et 4e République, et c'est un système politique qui avait plutôt fait du bien à la France. Et plus j'avance, et plus je me dis que ce système a vécu, qu'il a été bon à une époque, et qu'aujourd'hui que la France a besoin d'un autre système politique. Bah, il y a quelques années, c'est pas ce que je disais. Donc parfois, on peut même changer d'avis. Ouais. Allez, continuons. Ça va, Docteur Brio, t'es toujours avec nous? Donc voilà, la société civile. J'ai le temps? J'ai le temps, vite fait. Ah ouais. Vite fait, parce que c'est un pas de côté, mais. On s'interroge beaucoup sur le rapprochement ou pas aujourd'hui entre LR, la droite républicaine, et le RN, l'extrême droite. Est-ce qu'ils sont en train de se rapprocher encore plus maintenant? Est-ce que, pour poser vraiment la question, est-ce que demain ils sont en capacité de gouverner ensemble? Hein, il y a eu des rapprochements, il y a eu des départs de LR. Ciotti, il a quitté LR, c'est ça, je crois. Hein. Voilà. Il y a eu des gens qui sont passés même au RN. Mais est-ce que demain, un jour, LR et RN vont gouverner ensemble. Voilà, il y a plein de gens qui en sont persuadés. Et Libération, qui est un journal de gauche, dit ben non, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Bon, à voir. Le RN n'est pas l'extrême droite, dit René. Si, c'est mon avis. Mais tu peux le contester. Entre le RN et LR, un rodage de noces. C'est pas un voyage de noces, c'est un rodage de noces. Ballotté entre timide main tendue et demi-reculade, il y a des derniers scrupules et deux parties se lorgnent par-dessus l'antique cordon sanitaire. Ah, ça arrête de sauter, j'ai un petit faux contact sur mon câble. Allez, je touche plus. Depuis quelques jours, la droite et l'extrême droite ressemblent à ces paires d'ados qui n'arrivent pas à se mettre ensemble. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Chacun voudrait bien, mais c'est toujours la faute de l'autre si finalement ça capote. Je ne sais pas s'il faut parler de capote en matière d'amour, mais bon. Marine Le Pen ne dirait pas non, mais ce n'est quand même pas à elle de faire le premier pas, a-t-elle dit il y a quelques jours. Blablabla, blablabla, ça minaude, ça cherche, je fais des œillades, je résume, je vais à l'essentiel, quoi. Voilà. Depuis la démission de Le Cornu, l'Union a pourtant fait de grands pas. Mardi, Bardella se dit prêt à tendre la main au LR sur un accord de gouvernement. Ok. Après, certains disent que les déclarations des uns et des autres, il ne faut pas enfermer les gens dans les étiquettes, tout ça, mais bon, c'est quand même une déclaration intéressante. Bardella se dit prêt à tendre la main au LR sur un accord de gouvernement. L'ancienne porte-parole LR du gouvernement évoque un contrat de gouvernement. Ok. Cas pratique, dimanche, il y a un second tour de législatives partielles dans le Tarn-et-Garonne, avec une opposition PS et l'UDR Éric Ciotti. Voilà. Eh bien, Bruno Retailleau, le patron de LR, c'est chez moi à La Réunion. Pourquoi 10 minutes avant le début? Pas du tout, c'est à 13h. A dit, pas une voix pour la gauche. Pas une voix pour la gauche. Non, c'est chez moi à La Réunion. Au RN comme à droite, chacun continue pourtant de balancer à l'autre vacherie et procès en nullité. Les lepénistes désinglent le bilan de Retailleau à Beauvau sur l'immigration, la sécurité, l'AME, l'Algérie. Chez les Républicains, le parti d'extrême droite, tombeur de Barnier et de Bayrou, est toujours décrit comme un ingénieur du chaos. Voilà. Le RN veut jouer au chamboule-tout, se plaignait Retailleau début septembre. Voilà. Bon, ils n'arrêtent pas de s'engueuler, quoi. Et parfois, on s'engueule et à la fin, c'est la lune de miel. Donc ça se fait des clins d'œil, des œillades, ça essaie de se rapprocher quand même malgré tout. Et Libération écrit, le mariage des appareils est pourtant encore loin, l'ex-candidate à la présidentielle n'y a jamais cru, Marine Le Pen. Contrairement à sa nièce, Marion Maréchal, le FN de Jean-Marie Le Pen a toujours refusé le jeu des alliances, observe un proche du chef de l'État. On gagne seul ou on perd, Marine est sur la ligne du vieux, comprenez, de Jean-Marie Le Pen. Ça, mais est-ce que ça va se poursuivre ça? Les boutiques, elles, débordent de différences culturelles, personnelles, stratégiques. Le RN a toujours jugé la droite bourgeoise et hautaine. Au Sénat, Retailleau n'a jamais serré la main de nos sénateurs RN, ronronnait Sébastien Chenu mardi sur BFM. En réalité, M. Retailleau nous déteste, nous méprise, dit-il. La droite libérale, elle, sait que son discours ne touche pas un électorat populaire séduit par Le Pen. Retailleau ne parle jamais à l'électeur du RN, avance un conseiller ciotiste. Ce n'est pas sa droite trop inculte, avance le même proche de Macron qui ajoute « La droite catholique n'a jamais aimé Le Pen bon. ». Plutôt qu'une greffe, la droite rêve toujours de rejouer le grand siphonnage de l'électorat lepéniste réalisé par Nicolas Sarkozy en 2007, comme un ex-toxique qu'on n'arrive pas à oublier. Bon. La théorie de libération, mais qui n'est qu'une théorie, c'est que le RN rêve non pas de s'allier avec la droite, mais de lui piquer tous ses électeurs, et le LR rêve non pas de s'allier avec le RN, mais de lui piquer tous ses électeurs. C'est l'analyse de Libé. Est-ce que ces deux partis vont s'allier un jour, mais s'allier quoi, pour avant une élection par exemple, pour gagner le pouvoir ensemble? Libération aujourd'hui n'y croit pas. On verra ce qui se passera. Bon bah après on va aller assez vite, hein, tu vois. Emmanuel Macron, l'impasse partout. Qu'est-ce qu'il va faire? L'impasse partout. Attendez, vous croyez qu'il y a un clin d'œil à Fort Boyard dans le titre de l'humain, là? Attendez. Attendez, vous croyez... Vous pensez que c'est... Vous pensez? L'impasse partout?
Vous pensez que c'est ça?
Mais quel rapport entre Fort Boyard et Macron? C'est gratuit, non? Est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Je sais pas. Votre avis? Ah, parce qu'il a toutes les clés. Joli! Charlie Fulda. Eh oui, il a toutes les clés. Macron.
Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal.
Ok. Alors, quelle analyse de l'humanité sur ce qui va se passer? Bon, on se fait plaisir, hein. On est sur les pronostics. Le chef de l'État doit nommer un Premier ministre ce vendredi. Si la gauche hors LFI revendique Matignon, nombre d'indices laissent pressentir un nouvel entêtement du président à maintenir coûte que coûte son action. Donc encore un Premier ministre issu du camp Macron ou de la droite, hein, ou du centre droit, mais pas de la gauche, quoi. On verra, je vous lis pas l'article, vous avez l'idée générale, quoi. Voilà. Et puis, article dans Le Monde qui nous explique que le cornu serait prêt à lâcher sur le déficit. Vous savez que Bayrou, qui a sauté sur cette question, voulait un plan d'économie de 44 milliards d'euros pour la France. Le cornu a dit on va faire moins, parce que c'est trop brutal. Voilà. Et là, il serait prêt à faire encore moins. Le cornu prêt à lâcher sur le déficit pour voter un budget. Voilà. Le Premier ministre démissionnaire accepterait que le déficit public baisse deux fois moins que prévu en 2026 pour avoir le soutien notamment des députés de gauche hors LFI. Pourquoi sans LFI? Bah, tout simplement parce que le LFI a déjà dit qu'il ne soutiendrait pas un gouvernement Macron, en fait. Vous êtes plusieurs, vous avez raison, vous vous interrogez, mais pourquoi on dit toujours hors LFI? Parce que LFI a toujours dit qu'il ne souhaitait pas participer à un gouvernement nommé par Macron. LFI aujourd'hui demande soit une dissolution de l'Assemblée, soit une démission du président. Donc en fait, ils sont pas. Peut-être que je dis une bêtise, hein, mais ils sont pas inclus dans les négociations pour former un gouvernement, parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient pas en faire partie. Je crois, hein. Je crois que c'est ça le truc. Je crois, hein. Je crois que c'est ça. Mélenchon, enfin, je crois savoir que Jean-Luc Mélenchon a un peu autorité sur la question, a été très clair ces derniers jours. C'est, il dit démission ou dissolution. Je ne crois pas que Mélenchon ait appelé récemment à nommer un Premier ministre LFI. Hein, je ne crois pas. Si vous me trouvez une déclaration de Mélenchon dans les derniers jours où il dit, où il appelle le président Macron à nommer un Premier ministre LFI là maintenant, hors dissolution ou démission du président, je dirais my bad, mais je ne crois pas. Hein. Voilà, Shell me dit, tu as raison, il l'a répété à la conférence de presse ce matin. Ok. Voilà. Je surveille l'heure parce qu'à 45-50, je vous abandonne. Ouais, je me dépêche. Donc voilà, bon, le budget, ok. On en parlera. Alors, on pourrait passer une heure sur le sujet. Là, sur cette question du budget, de la dette, de l'endettement de la France, de la réforme des retraites. Parce qu'il y a un truc dont je ne vous parle pas ce matin par manque de temps, c'est tout le débat dont on a beaucoup parlé hier sur l'hypothèse où Macron serait prêt à accepter la suspension de la réforme des retraites. Hein, ce que Elisabeth Borne, il y a quelques jours, a évoqué, alors même que c'est elle qui a fait passer cette réforme par 49-3. Voilà. Et donc Macron serait prêt peut-être à accepter une suspension de cette réforme des retraites, suspension qui n'est pas abrogation, mais suspension, le temps d'améliorer cette réforme, voilà, ce qui aurait un certain coût chaque année de suspension, X pour la première année, X pour la deuxième, etc., pour obtenir un soutien ou une non-censure d'une partie de la gauche pour le prochain gouvernement. Voilà. Puisque la gauche n'arrive pas à avoir gain de cause sur la politique fiscale, notamment la taxe Zucman pour frapper les ultra-riches en France, voilà. Il lâcherait du lest sur la dette et sur la réforme des retraites. Voilà. Ce qui est une petite révolution. Hein. C'est un des gros marqueurs du mandat Macron, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un gros sujet. Alors, je vous résume le débat dans les journaux depuis quelques jours. Il y a des gens qui prennent la parole en disant « Ah ben, il était pas trop temps, pas trop tôt. Hein. » Des millions de Français sont descendus dans la rue pour dénoncer cette réforme des retraites qui est passée par 49-3. Et donc, il était temps qu'on soit entendu. Et yes, la suspension, et même mieux, l'abrogation de la réforme des retraites. Voilà. Et puis, il y a des gens qui disent... plutôt, on va dire, macroniste et de droite, hein, pour faire simple, qui disent « Ah bah non, les gars, l'état des finances publiques fait que si on suspend la réforme des retraites, et pire, si on l'abroge, notre déficit budgétaire, il va exploser, quoi. » Voilà. Voilà, je vous résume un petit peu les deux écoles de pensée sur le sujet. Ce à quoi la gauche répond « Ah, ok, on va dépenser plus là-dessus, mais on ira chercher des sous ailleurs. » Voilà. Voilà. Donc ça, je vous donne un petit peu rapidement les clés, celles de Passepartout, sur le sujet. Mais si on apprend dans les prochains jours qu'il y a une suspension de la réforme des retraites, on prendra le temps de lire tout ça, quoi. Merci beaucoup, Pogba, et puis force pour le boulot, hein. Force pour le boulot. La DRDDR, on s'est régalé hier soir. Hein. Voilà. Mais donc, là, à un moment, j'ai aussi appris à pas passer 15 heures sur un sujet... si en fait il se passe rien, quoi. Donc dans les prochains jours, si on voit qu'il se passe quelque chose autour de la réforme des retraites, eh ben là on rentrera dedans, quoi. Voilà. Bon, en 10 minutes, vite fait, deux petits sujets. Ah, le Covid et Battlefield. Sommaire. Après je vous abandonne, j'ai une réunion, la réunion que j'ai ratée hier. Covid, nouvelle vague, vite fait. On est à combien de TC là ? 2h25 ? Ça va être rapide, mais c'est des petites infos qui sont pas inintéressantes quand même. Hein, 2h25. C'est une petite vague de Covid qui arrive là. Ok. Ok, au TikTok, je vous mets la même chose. Il est où le sommaire ? Ah oui, c'est la journée... Oh, petite Cosmique a complètement raison. En parlant santé, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Ah oui, bien joué. Prenez soin de vous, de vos proches, nous dit petite Cosmique. Si vous êtes en détresse, parlez-en à un proche, à un professionnel de santé, il y a la lumière au bout du tunnel. Bravo pour ton message, petite Cosmique. Hein, il y a des numéros de téléphone, il y a des assos, hein, il y a des professionnels de santé. Voilà, ne restez jamais seul. Quand vous avez... quand subitement vous êtes dans le dur, quoi. D'accord ? C'est effectivement la journée mondiale de la santé mentale. Bien vu. D'ailleurs, c'est dommage que j'ai pas trouvé d'article ce matin dans la presse là-dessus. Et comme le dit MMG, it's okay not to be okay, c'est exactement ça. Voilà. Ça nous arrivera tous. Hein. La vie est ainsi faite. Voilà. Parfois, il y a des... Hélas, plus pour certains que pour d'autres. Il y a des coups durs, il y a des accidents de la vie. Voilà. Et on en prend plein derrière la nuque. Voilà. Et parfois, au pire moment. Et on va tous vivre ce genre de choses. Voilà. Hélas, certains plus que d'autres. Voilà. Et donc, voilà, vous n'êtes pas seul par rapport à ça, quoi. Grand tabou en France, la santé mentale. Il faut en parler. Merci Acta pour ce commentaire, pour cette participation éclairée à notre débat sur la santé mentale en France, intitulé « Médias mensonges ». Merci, merci beaucoup. Alors donc, le Covid, vite fait. Ah, mais je pense que c'est plus ça qui te fait... Dis donc, je suis en train de perdre mon... Ah bah je l'ai perdu là. C'est mon câble qui fatigue. C'est quoi cette histoire de Covid ? Une vague de contamination avant la campagne vaccinale. C'est ça qui est embêtant. C'est que là, il y a des cas, mais le vaccin, il n'est pas là encore. Voilà. Le variant XFG de la famille Omicron a déjà provoqué une hausse du nombre des cas alors que les vaccinations démarrent lundi, le 14 octobre. Le nombre d'infections respiratoires aiguës est en hausse pour la troisième semaine d'affilée.
Une tendance essentiellement portée par le rhinovirus, cette famille de virus responsable de la moitié des rhumes banales, hein, et par la 15e vague de Covid-19. Tout n'est pas Covid. Le taux d'incidence des cas de Covid-19 vus en cabinet de médecins généralistes est estimé à 51 cas pour 100 000 habitants. Merci Bubu. Selon le bulletin de santé publique France publié le mercredi dernier. Niveau 10 fois plus élevé qu'en février. La part des hospitalisations après passage aux urgences pour Covid était en augmentation dans toutes les classes d'âge, voilà, sauf chez les 0-4 ans, mais à des niveaux très faibles. On est sur 635 hospitalisations chez les 65 ans et plus, ce qui est très peu. Hein, non, pas, on va pas raconter n'importe quoi. Merci pour les bits. Merci Zoukaboum. Selon le dernier bulletin du réseau national des laboratoires des centres hospitaliers, le taux de détection du Covid, c'est-à-dire le nombre de tests positifs rapportés au nombre de prélèvements effectués par le laboratoire, a quand même bondi de 8 à 24% en 3 semaines. Il semble que le pic de cette nouvelle vague est en train d'arriver, voire même qu'il est déjà passé, explique une épidémiologiste au CHU de Nîmes. Pour la deuxième année de suite, le Covid-19 qui circule toute l'année à bas bruit maintenant, hein, connaît un rebond épidémique à la rentrée, comme les rhinovirus. Hein, on sait que maintenant, ça, c'est à chaque rentrée. Le niveau d'incidence de cette année est d'ailleurs comparable à celui de l'an dernier. Mais il est trop tôt pour dire que ça va continuer comme ça pendant les années à venir, dit l'épidémiologiste de Nîmes. L'évolution virologique du SARS-CoV-2 est encore trop imprédictible, dit-elle. D'autant plus que, lors de la saison hivernale de l'an dernier, la grippe a brouillé les signaux sur la saisonnalité du Covid-19. La vague actuelle est très majoritairement portée par un nouveau variant, dont XFG, surnommé Frankenstein sur les réseaux sociaux. Identifié pour la première fois en avril, il est monté lentement en puissance. Il représente désormais les trois quarts des virus de Covid en circulation en France. Voilà. Comme l'indique le X dans son nom, c'est un recombinant entre deux variants préexistants. C'est pour ça qu'on l'appelle Frankenstein. Voilà. Or, la dernière mise à jour du vaccin contre le Covid, qui sera distribuée lors de la campagne de vaccination débutant mardi 14 octobre, donc déjà, des scientifiques nous disent que le pic est peut-être déjà derrière nous, mais le vaccin, il arrive le 14 octobre. Bon. Voilà. Et ce vaccin est adapté à l'un des deux variants préexistants, le LP812, voilà, mais pas forcément au variant Frankenstein. Non, pas le variant Francky Vincent. Non, non. Mais il a de bonnes chances d'être efficace, disent certains experts, qui s'interrogent quand même sur le timing de la campagne vaccinale, qui est alignée en fait sur la campagne contre la grippe, sauf que, manifestement, il arrive un peu tard. Voilà. C'est la deuxième fois que le pic de la vague arrive juste avant le début de la vaccination. C'est une erreur, estime l'épidémiologiste Mircea Sofonea. Les personnes vulnérables qui auraient pu être protégées ne l'ont pas été. Personnes vulnérables, les personnes âgées avec des affections, les personnes les plus fragiles, les enfants en très bas âge, les femmes enceintes. Hein, c'est de ces personnes dont on parle. Non, c'est 13 heures, je suis large. C'est 13h, je suis large. Attends, je vérifie, mais c'est 13h ma réunion. Je vérifie parce que hier je l'ai raté. 13h, tout va bien. Donc voilà, c'est ça. Petites infos vite fait, quoi. Sur le Covid. Voilà. Et il me reste 3 minutes, merci Samuel Etienne, putain, pour parler de Battlefield 6, alors qu'évidemment c'est la principale information de la journée. Ah là là, Samuel, priorité. Pff, c'est fou ça. Allez, je me dépêche. 2h32, c'est honteux ce que tu fais Samuel Etienne, c'est honteux. Battlefield 6 expédié là, ah là là. Samuel, c'est honteux. TikTok, je vous mets la petite flèche. Putain, vraiment, il fait n'importe quoi, l'autre vieux, là. Sommaire. Covid, Battlefield 6. Mais oui, monsieur Etienne. Au
aucun sens de responsabilité. Alors, donc c'est une page dans Les Échos, félicitations les Échos, le journal économique, parce que c'est moi j'ai envie de vous expliquer, c'est le quotidien français qui parle plus de jeux vidéo en France. Voilà. On parle pas assez de jeux vidéo. Le jeu vidéo, c'est une culture hyper importante et fascinante. Et avec une actualité de fou, des nouveaux jeux qui sortent sans arrêt. Et parfois, c'est des vraies œuvres d'art. Bah, les journaux n'en parlent pas assez. Les journaux en parlent un peu, mais pas assez au regard de l'importance culturelle que ça dans une société comme la société française. Voilà. Les Échos, on parle très souvent des jeux vidéo. Alors évidemment, avec un angle économique, comment ça coûte, comment ça rapporte, les emplois, etc. Puisque c'est un journal économique. Voilà. Avec Battlefield 6, Les Échos nous racontent ce matin, Electronic Arts, donc le studio, défie Call of Duty et lance la bataille de Noël. Nicolas Richaud écrit dans Les Échos. C'est un duel de titans qui se profile dans l'industrie ce vendredi. Le très attendu jeu vidéo de tir à la première personne, FPS, baby. Battlefield 6 sera disponible à la vente 4 ans après le dernier opus de la licence Battlefield 2042. Cette franchise phare du jeu vidéo fait partie des joyaux de l'éditeur EA, qui possède aussi les Sims et la licence EA Sports FC, l'ancien FIFA, qui vient d'être acheté pour 55 milliards de dollars. Ah oui, ils viennent d'être achetés en plus. Par un attelage de fonds, notamment des fonds saoudiens, je crois. Hein ? Auréolé d'un joli buzz après les premiers tests de plusieurs millions de joueurs, Battlefield 6 s'en va défier Call of Duty, dont l'éditeur Activision Blizzard, lui aussi, a été racheté 75 milliards de dollars par Microsoft fin 2023. Le maître du genre FPS, donc Call of, est une machine à cash générant entre 3 et 4 milliards de revenus par an. C'est l'une des... C'est mon téléphone. M'en fous, je suis sur Battlefield 6. C'est l'une des très rares franchises du secteur à avoir franchi la barre des 500 millions de ventes. Call of Duty est un monument, souligne Corentin Marty, qui est analyste financier jeux vidéo. Mais Battlefield 6 est très bien parti pour beaucoup se vendre. Il va y avoir match, dit-il. Hein, le prochain opus de Call of Duty Black Ops 7, on a joué à la bêta ici il y a quelques jours, est attendu pour le 14 novembre. De quoi promettre un beau duel à Noël, période cruciale pour l'industrie, bien sûr, du jeu vidéo. Salut Chantis, bonne journée. Selon Bloomberg Intelligence, Battlefield 6 pourrait s'écouler à 15 millions d'unités lors des 6 premiers mois d'exploitation. Mais les sons de cloche diffèrent néanmoins dans l'industrie sur l'issue du combat à venir. Certains estiment que Battlefield va écraser Call of Duty cette année, mais le véritable gain, c'est que Call of Duty ne sera plus paresseux. Nous aurons tous droit de meilleurs jeux FPS, a dit l'ancien président de Blizzard, Mike Ibarra. Call of Duty est devenu un titre mainstream sur PC et console, quand Battlefield plaît essentiellement aux puristes du genre. Hein, les gamers. Pardon. Et garde cette image très PC. Explique Francis Ingrand, qui est patron du groupe français Plugin Digital. Digital ? Bon an, mal an, Call of Duty se retrouve toujours au sommet des ventes malgré des hausses de prix et un tarif standard à 80€. C'est donc le favori Call of. Et Battlefield 6, le challenger. Face à Activision et sa pépite, EA n'a en tout cas pas lésiné sur les moyens pour ce Battlefield 6. Le jeu aurait coûté plus de 400 millions de dollars.
Waouh.
400 millions de dollars en développement. Niveau stratosphérique dans l'industrie, mais qui reste cependant à bonne distance des frais engagés pour Call of. Sortis en 2019 et 2020, les titres Modern Warfare et Black Ops Cold War auraient coûté respectivement 640 et 700 millions d'euros. Il y a Moinpo qui a écrit « Ça en fait des lignes de coke ». Alors qu'il voulait écrire « Ça en fait des lignes de code ». C'est fou comment une lettre sur un clavier change tout. C'est incroyable. Tu t'es trompé. Pour se différencier de son rival, Battlefield 6 va pouvoir compter sur un prix plus attractif, 70€ pour la version standard, ainsi que sur sa fraîcheur et l'attente suscitée chez les joueurs par son absence quand un nouvel opus de Call of voit tous les jours, voit tous les ans le jour depuis 2005. Voilà. C'est une routine Call of tous les ans, alors que Battlefield c'est un événement, quoi. Tous les 4 à 5 ans. Un jeu qui secoue le cocotier et apporte son lot de nouveautés. Ah, ça reparle de coco, cocotier. De fait, Battlefield 6 avait beaucoup fait parler avec une nouvelle fonctionnalité anti-triche. Dans la foulée, Activision a annoncé qu'il allait intégrer un dispositif analogue. Ça améliorerait du coup Call of, ils veulent améliorer l'anti-triche. Ils sont très attentifs à ce que fait Battlefield. Après, c'est aussi dû à leur position de leader. Ils sont prudents et se contentent d'ajouter les innovations déjà validées par le marché. Ce qu'ils ont très bien fait en incorporant dans Warzone, auquel on a joué nous hier soir, en 2020, le mode Battle Royale qui avait été popularisé par Fortnite et Player Unknown's Battleground, PUBG. C'est génial, hein? Franchement intéressant cet article en vrai. Battlefield joue aussi sur son image de jeu réaliste. C'est bien vu car c'est ce que réclament les joueurs de FPS en ce moment et Call of Duty est moins perçu ainsi. Voilà. Marrant. Ok. Pas... Surtout par H1Z1 surtout. Ok. Ouais, c'est en podcast Adrien maintenant. Les amis, je file. 53. Hein? Je vous abandonne comme des vieilles chaussettes. Merci d'avoir été là ce matin. Amis TikTok, je vous dis au revoir. Je vous dis on se retrouve au plus tard TikTok lundi matin pour la revue de presse parce que la revue de presse est tous les matins sur Twitch, sur TikTok et aussi en podcast audio également tous les jours. Je vous abandonne, je vous dis au revoir et je vous dis je vais streamer tout le week-end. Hein. Venez sur Twitch. Hein. Je vous rappelle, attendez, amis TikTok, venez voir ça et venez voir ça. Hein. Dimanche soir sur Twitch, il y a ça. Hein. Attends, je vous mets la même. Amis Twitch. Dimanche soir, il y a Simplay. Hein, ça fait. Plus de 2 ans, c'est le début de la 3e saison. Tous les dimanches soirs, je reçois un nouvel invité pour parler d'un jeu que je connais pas. Et on joue, et c'est la fête. Il y a Enjoy Phoenix, la célèbre youtubeuse, Marie, qui vient dimanche à la maison sur Twitch. Voilà, et on va jouer à Life is Strange. Voilà, donc je vous donne rendez-vous sur Twitch tout le week-end. Ce soir, il y aura du gaming. Samedi soir, il y aura du gaming. Dimanche, donc il y a Enjoy Phoenix dans Simplay. Venez sur Twitch. Et on se retrouve lundi sur TikTok pour la vue de presse, lundi matin. Let's go les beaux gosses, je cut le stream. Prenez soin de vous, soyez heureux, passez un beau week-end surtout. À très vite. Ça arrête le live sur TikTok. Et nous sur Twitch, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un raid. Kikinine en live. Plus. Je suis trop de gens, je suis beaucoup trop de gens. Qui allons-nous soutenir aujourd'hui? Oui. Et oui, je sais qui on va soutenir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est très proche de moi. C'est quelqu'un qui est un formidable réalisateur, qui est un formidable producteur, qui est un formidable photographe, qui est un passionné de photos. Qui stream aussi à ses heures perdues. Pour le plaisir, parce qu'il vous aime, parce qu'il aime Twitch, c'est un vrai amoureux de Twitch. C'est mon ami, c'est mon partenaire de crime, c'est lui qui m'accompagne sur mes streams quand ça devient un peu compliqué, quand il y a de la prod, quand il y a de la réalisation, comme par exemple le bingo cette semaine. On va raid l'ami Joe Coco, c'est son nom de streamer. Voilà. Comme il stream pas souvent, il y a 8 viewers sur sa chaîne, alors que le mec est génial. Et qui propose un super contenu. Là, il est en train de bosser sur des photos, c'est un passionné de photos. Voilà, notamment, il a pris des photos de Mademoiselle Sony, je vois là. Donc, on va le raid, ok? Vous allez voir, le mec est super cool. C'est mon poteau, c'est mon ami. Ça fait longtemps que je l'ai pas raid. Voilà. Donnez-lui de la force et dites-lui qu'il faudrait qu'il stream plus souvent, ok? Parce qu'on a besoin d'un Joe dans le stream français. Prenez soin de vous. Moi, je file vers mon Teams. On se retrouve ce soir, je sais pas à quelle heure, parce que j'ai peur que mon tournage de cet après-midi soit un petit peu long. Allez, let's go!